Recording in progress.
Martin, pèse sur le piton.
C'est vendredi et quoi de mieux pour débuter le week-end qu'une visite de l'autre côté du plateau, un podcast consacré aux jeux de société. Et voici vos animateurs, Martin et Martin.
Bonjour et bienvenue de l'autre côté du plateau, le podcast francophone de jeux de société. Mon nom est Martin Montoy de la chaîne YouTube La Société des Jeux. Et pas question de s'asseoir sur nos lauriers après notre 100e épisode. Et oui, il y a une suite, devinez, un 101e épisode. Martin, toujours un plaisir de te retrouver pour m'assister dans cette folie ludique. Alors, comment vas-tu, Martin?
Martin, je vais très bien. Je te parle alors que j'ai pas mal fini mon année scolaire. J'ai fini de faire mes bulletins hier.
Est-ce que tout le monde a passé?
Non, je te confirme que non.
On a-tu un scoop? Tu donnes-tu des noms?
Non, je ne donnerai pas de noms. Je voudrais pas. Je voudrais garder ma job, mais je veux. Non, ça a été. Ça va faire du bien. Mais mon problème, c'est que j'ai trop de projets en tête de jeux que je veux jouer. Je te dirais que là, Martin, je suis en train de lire le livret d'instruction. Probablement, selon moi, le pire livret d'instruction que j'ai lu depuis. Pas que c'est. Le jeu s'appelle Dungeon Degenerate. T'as-tu vu ça, Martin, ce jeu-là?
Ah, il est tellement laid. J'ai jamais osé le prendre. L'artistique me fait éloigner de ce jeu-là. Peut-être que je me trompe, là, mais...
Écoute, je l'ai pris juste parce que... Tu sais, moi, j'aime ça, suivre un peu le hype du moment de la part. Bon, moi, j'ai un Discord. Puis les gens avaient l'air d'en parler en bien. J'ai fait comme, OK, je vais le faire venir de notre ami de La Pioche. On salue d'ailleurs notre commanditaire, boutique de jeux La Pioche.
JP, effectivement, tu me disais même que tu as fait un petit spécial en sa compagnie.
Ben oui, son podcast de La Pioche, qui est très bon d'ailleurs, qui est un véritable podcast de l'autre côté du plateau, où il nous parle un petit peu du côté entrepreneurial d'avoir une boutique et tout ça. Fait que je vous invite à l'écouter. Donc, ça s'appelle, je pense, La Pioche. Vous avez juste à regarder ça. Fait que oui, j'ai un épisode que j'ai enregistré aujourd'hui avec lui qui devrait, j'imagine, passer très bientôt. Mais je vais juste dire qu'il faut se rendre aussi au www.boutiquelapioche.com si vous voulez aller voir tout ce qu'il offre. Mais donc, je l'ai fait venir de lui. Je l'ai ouvert. J'ai vomi.
Il s'est juste embelli à ce moment-là.
honnêtement, c'est vraiment pas... J'essaie de trouver d'ailleurs, je veux savoir si c'est un jeu qui est très... je ne sais pas comment l'écrire, c'est pas grave. Je ne sais pas comment écrire le nom en français. Mais Dungeon Degenerate, il y a un livret d'instructions de 36 pages, Martin. Puis je pense que ça fait 4 fois que je recommence parce que je m'endors dessus. Il y a 36 pages à double colonne, écrit petit. Puis il y a quelqu'un sur mon Discord, j'ai juste écrit le mot, j'ai de la difficulté à lire le livret d'instructions. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, ben voyons donc. Il est super simple, ce jeu-là. Mais là, je ne comprends pas. Comment un jeu simple peut avoir 36 pages à double colonne puis de dire que le jeu est simple? Je ne sais pas si c'est moi qui comprends pas.
Tu vieillis, Martin.
Ben, je vieillis peut-être. C'est peut-être aussi par joli, c'est Dungeon Degenerate. C'est un jeu de 2017, hein, en même temps. Je pense que
ouais, il y en a eu plusieurs versions, par contre. Là. Ça dépend de laquelle que tu as. Là. Le jeu de base date de 2017. Je ne sais pas si c'est des extensions, les autres, ou des standalone.
Ben moi, c'est End of Doom que j'ai. Puis,
ouais, ça, c'est le premier. Là.
Bon, il est coté 3,61 sur 5. Puis, j'ai entraîné les règles. Puis, tu sais, il va falloir que quelqu'un m'explique. Là. C'est pas que c'est mauvais. Là. Je ne dis pas que c'est un jeu qui va être mauvais, mais pour l'instant, je ne vois pas quelque chose qui sort de l'ordinaire, mais à part les couleurs exécrables. mais je vais, en tout cas, je.
Tu n'auras pas des amis. Là.
Non, mais là, je dis vraiment ce que je pense. Là. Faut, hein, c'est ça un peu le but. Hein. Présentement, ça ne me dit rien. Mais ça ne veut pas dire que ça va être rien. Je vais l'essayer. Puis quand on va se reparler, peut-être la semaine prochaine, là, ben, pas, on va se reparler la semaine prochaine, mais peut-être que je vais y avoir joué puis je pourrai te revenir sur ça. Mais là, pour l'instant, j'avance tranquillement à la lecture des règles.
Parfait. Je vais te laisser celui-là et je vais attendre que tu me reviennes. Il faut que tu me convainques parce que jusqu'à date, je me suis toujours tenu un peu loin de ce jeu-là. Peut-être à tort. Tu me le diras.
Je pense pas que ça va être à tort, Martin, mais encore une fois, je ne voudrais pas nécessairement me faire des ennemis parce que je ne l'ai pas essayé. Mais je te dirais que le premier coup d'œil, ça ne regarde pas bien, mais il y a beaucoup de gens qui semblent apprécier. Fait que... On va voir ça.
Ça me fait penser un petit peu à Escape from Dark Castle, quelque chose comme ça, là, que j'avais,
Oui.
moi par contre, qui est en noir et blanc, celui-là, il est très coloré, là, mais
Oui.
c'est le même esprit artistique un peu des années 70 avec, ça semble être un genre de dungeon crawler à 2D assez classique, là, mais en tout cas, je te laisse le découvrir, tu nous en parleras.
J'ai deux petites autres choses à dire aussi. J'ai une excitation qui s'en vient. Que tu sais, le genre de jeu que tu t'attends pas pantoute, puis que tu en entends parler, puis tu fais comme OK, puis je ne sais pas si je vais vraiment me le procurer. Puis l'autre, j'ai réussi à faire jouer à ma fille à un jeu, imagine-toi, qui n'est pas Uno. Alors, j'ai réussi à y faire jouer à Legendary, Buffy the Vampire Slayer.
Parce qu'elle aime la thématique.
Parce qu'elle écoute présentement les Buffy avec sa mère. Moi, Buffy, j'ai beaucoup. Ben, je les ai toutes écoutées quand j'étais plus jeune. C'était une série que j'ai bien aimée. Et hier, on s'est installés ensemble, Hélène, moi, puis ma fille, puis on a joué une partie. Puis ça faisait très, 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 très longtemps que je n'avais pas joué un Legendary. Puis ça tient la route, Martin.
A bien vieilli quand même.
Ouais, ça vieillit bien. Tu sais, ça reste un deck builder bien ben de base, mais le concept de tourner une carte, puis de devoir recruter un héros ou de battre les ennemis. Puis là, ben, dans Buffy, tu as aussi une piste de lumière et de noirceur qui fait en sorte que les cartes vont réagir différemment dépendamment où est le jeton. C'est très thématique par rapport à Buffy. Donc, c'est sûr que si
Ben oui.
vous n'avez aucun intérêt, mais ma fille, elle a un grand intérêt. Puis, je pense que c'est la première fois que je joue un jeu en anglais avec elle aussi. Fait que ça m'ouvre des portes parce que j'ai quand même plusieurs jeux en anglais dans ma ludothèque. Alors, ça va être intéressant. Pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'elle a joué totalement au niveau de la stratégie, puis je pense qu'elle choisissait plus les cartes en fonction des personnages.
Sûrement.
Mais on commençait à y expliquer un petit peu la synergie. Tu sais, il faut que tu joues une carte d'un tel type pour pouvoir
Oui,
activer les
il y a
cartes.
des combos de
Exact.
succession de cartes.
Fait que je pense qu'elle commençait à comprendre, puis là, on a arrêté de jouer parce que j'avais oublié de mettre les Scheme Twists dans le paquet, donc j'avais.
C'est comme la base, Martin.
Ben, c'était la base. Ben, ça fait longtemps que je n'avais pas joué. Puis il a fallu que je me remette un peu dans les règles parce qu'il y a une affaire qui n'a pas changé dans toutes ces années. C'est qu'il est très, très, très long à mettre en place. C'est pas un jeu là, que tu peux sortir puis 10 minutes après, tu joues. Tu as tellement de choses à. Tu sais, des paquets à brasser. Il faut que tu t'assures que les cartes ne sont pas toutes à un côté de l'autre. Fait que ça a pris un petit peu de temps, mais après ça, on a eu quand même bien du plaisir et on se promet de rejouer une autre véritable partie bientôt.
J'ai gardé mes copies de Legendary. Je n'ai pas tous les extensions. Celle-là, Buffy, je ne l'ai pas parce que ce n'est pas une thématique qui m'intéressait, mais j'en ai quand même suffisamment. Puis ça reste un deck building assez traditionnel, mais en tout cas, surtout ceux avec une thématique, là. Moi, j'ai Alien, entre autres, que j'aime retourner parce qu'on revit les épisodes comme dans le film, là. C'est quand même bien fait. Donc, c'est encore dans ma ludothèque. C'est bon signe.
Oui, bien, puis là, il y a le fameux Legendary. La matrice, qu'on se
Oui.
est rendue où? Parce que ça a été annoncé, ça fait longtemps. Je ne suis pas sûr que c'était pour Gen Con l'année passée que ça a été annoncé, puis on n'a toujours pas de nouvelles concernant la sortie de celui-là. Donc, j'imagine peut-être que toi qui vas aller faire un petit tour au Gen Con, tu vas peut-être en avoir plus de nouvelles, mais il continue encore à mettre des extensions pour les Marvel Legendary. Fait que c'est un jeu qui tient, comme je dis, qui tient bien la route, qui est le fun, qui est agréable. Tu sais, des fois, tu gardes des jeux, puis tu te dis, ah, pourquoi je les garde, mais là, je l'ai ressorti. Fait que, tu sais, je ne l'ai pas gardé pour rien.
C'est drôle parce que ça va être un peu en thème avec notre thématique de la semaine. J'ai proposé à Martin de faire une espèce de throwback, de repartir sur nos vieux épisodes et de regarder les suggestions de jeux qu'on avait fait à l'époque et de dire est-ce que ça tient encore la route? Est-ce qu'on a le goût d'y retourner? Est-ce qu'on y a rejoué depuis? Est-ce qu'on les a gardés? Est-ce qu'on les a vendus dans notre bazar? Parce que moi aussi, j'ai épuré ma ludothèque. Toi aussi, récemment, tu viens de le faire avec les Meeple Olympiades. Donc, ça nous permettra de faire un petit retour dans le temps par rapport à l'ado. On a appelé ça des vieux jeux, mais ça date de 2021.
Ah, même.
Oui, notre premier podcast, 14 mai 2021.
Wow, OK, 21, 22, 23, fait que ça fait plus de 2 ans et demi à peu près.
Exact.
On a commencé ça, puis on est rendu à 101 épisodes.
101e épisode. C'est quand même efficace comme rendement.
sais qu'on est très thématique, Martin, parce que c'est le 101e épisode, et tu sais que le 101 au Québec, c'est très important. Hein? C'est
La loi 101.
la loi 101, la conservation du Québec, l'UQLFFF. C'est tout
on
un
lien. Salue d'ailleurs.
Bon, on leur dit bonjour.
On leur dit bonjour. Je sais qu'ils nous écoutent de temps en temps.
De temps en temps. Ça va être justement au moment où ils ne devraient pas nous écouter qu'ils nous écoutent.
Sûrement. Martin, peut-être un petit retour par rapport à notre enregistrement live. Comment tu as trouvé ça de faire le régisseur derrière ta console en live avec des abonnés qui répondent et qui nous écrivent sur le chat?
Ben moi, j'aime ça, le live, Martin, puis je pense que je vais commencer à en faire de plus en plus aussi sur ma chaîne, parce que justement, tu as le plus d'interactions, puis je commence à être pas pire habitué avec mes changements de caméra, puis c'est sûr que c'est plus de travail, parce que pendant que tu écoutes, pendant que tu es en train de parler, il faut que j'aie sur mon ordinateur pour préparer la prochaine shot, pour mettre les images. C'est sûr, il faut essayer d'avoir cette vision-là que les gens peuvent regarder.
Oui, il faut s'adapter aussi parce qu'on avait le visuel. D'habitude, on essaie de rester imagé dans nos paroles parce que c'est un podcast avant tout. Là, on avait tendance des fois à dire comme Martin montre à l'écran, mais c'est pas tout le monde qui l'écoutait en live de façon visuelle. Moi, j'aime surtout le fait que un coup que l'enregistrement est fait, il n'y a pas de montage à faire. Hein. C'est,
ouais.
c'est direct. Je me suis sauvé une journée de montage. C'est quand même pas mal.
Ben oui, puis moi, ce qui m'a fasciné, Martin, c'est que on a eu quand même, je te dirais, à peu près, en tout et pour tout, une centaine de personnes, je pense, qui sont venues le regarder, même plus que ça, sur la page Facebook de l'autre côté du plateau. Je l'ai mis sur ma chaîne.
Oui.
Puis sur ma chaîne, au moment où on se parle, là, présentement, elle est déjà rendue à 605 visionnements.
Après quelques jours, parce que là, on enregistre le début de la semaine, donc ça fait pas
exact.
Tellement longtemps que tu l'as mis.
Puis, on a quand même eu 2000 ou plus de 2100 téléchargements la semaine dernière sur notre podcast. Donc, c'est sûr qu'on a probablement perdu quelques personnes qui ne l'auront pas ou qui l'ont
ouais,
pas écouté.
Qui n'auront pas écouté en podcast parce qu'ils l'ont écouté vidéo. Là. C'est ce que je m'attendais, mais finalement, c'est pas si mal.
Oui, c'est ça. Ouais. Fait que j'ai été surpris. Soit notre auditoire continue de grossir, mais ça a été le fun. Mais il y a beaucoup de monde qui m'ont posé la question. Je ne pense pas qu'on va en faire une habitude. Je pense que ça va continuer à être audio. Parce que je pense que le côté audio reste plaisant. Là, ça va juste être à Martin peut-être d'accepter que ce ne soit pas toujours monté à la perfection. Mais je sais que le côté audio est quand même. Je trouve que c'est quelque chose qui est. Je sais pas, qui fait différent de ce que nous faisons, nous autres, avec nos chaînes YouTube. T'sais.
Oui, si c'était notre principale activité, peut-être qu'on penserait à le faire autant visuellement que le podcast. Mais là, comme on a chacun nos chaînes de notre côté, effectivement, c'est une bonne idée de garder ce podcast-là plus dans un format audio qui est distinct de ce qu'on fait dans notre autre activité. Puis c'est un format que j'aime bien. C'est plus décontracté. Bon, vous ne me voyez pas, là, mais je suis en pyjama avec. Je peux être habillé n'importe comment, puis il n'y a pas de problème. J'ai pas de caméra, non, c'est pas vrai.
Je savais pas que ton pyjama était une chemise, mais écoute, t'as chacun son style, hein, Martin.
Moi, oui.
J'ai aucun. Je vois que t'as le même décor que t'avais vendredi en plus. Fait que c'est. On voit que tu restes dans ton magnifique et extraordinaire chalet.
Oui, j'ai pas bougé. Je passe la semaine ici parce que Marie-Hélène est en congé, donc je fais du télétravail dans un environnement assez intéressant quand même. C'est plus relax.
Je te confirme que c'est un environnement relax.
Oui, oui, t'as bien dormi d'ailleurs hein, quand t'es venu.
J'ai très très bien dormi, mais j'étais tellement fatigué.
Il y a ça. On n'a pas dormi longtemps non plus.
Non, c'est ça.
OK. Martin, peut-être un petit retour également avec le pool, notre pool de jeux de société qui tire à sa fin bientôt. D'ailleurs, on a fait une petite rencontre après notre dernier enregistrement live. On a déterminé la fin de la saison.
Oui.
Est-ce qu'on l'a annoncé ou pas officiellement
encore? Non, on ne l'a pas annoncé encore.
Est-ce qu'on garde le suspense ou...
Bon, on peut l'annoncer, Martin.
Ah, vas-y.
Le dernier podcast estival sera donc le 14 février prochain. Je ne me trompe pas, Martin?
C'est si ça? Tu dis, moi, je sais que c'était autour du 15, là, fait que le 14,
ben, c'est ça.
Va,
donc,
c'est le dernier vendredi.
Fait que 14 juillet 2023, ce sera donc le 103e épisode. On va se prendre une petite pause de un mois et demi après, puis on va recommencer le 8 septembre prochain. Donc, on a une pause. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de podcast pendant l'été. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des petites surprises qui vont se faire pendant l'été, ici et là. Mais pour ce qui est du podcast principal, on se fait un petit arrêt. On en a besoin, je pense, honnêtement, pour se ressourcer. Parce qu'à toutes les semaines, ça revient très rapidement. Puis, on a toujours beaucoup de plaisir, mais je pense, même moi, je pense que j'ai la langue à terre d'essayer d'avoir des expériences ludiques.
Oui, certaines fois, ça va très bien. Il y a d'autres fois que c'est plus laborieux parce qu'on a moins le temps de jouer. Ça arrive à chaque semaine, c'est quand même beaucoup à préparer. Ben, pas tellement à préparer, mais à avoir assez de contenu à vous partager. Donc, au niveau du pool de Juste Société, on avait dit de mémoire qu'on arrêtait la saison
Le 30 juin.
le 30 juin. Donc, ce
Et
qui est bientôt, là.
aujourd'hui.
C'est aujourd'hui. Bon, au moment où on fait l'enregistrement, c'est quelques jours avant, donc ça ne devrait pas changer tellement si je me fie, mais au classement. Par contre, je sais qu'ils font une mise à jour à chaque semaine. Fait qu'il va rester une dernière mise à jour. Donc, ce que je vais vous dire là, ça peut changer. Fait qu'on va donner officiellement les vrais gagnants la semaine prochaine. Présentement, c'est Christian Labrèche qui est en pole position avec 955 points.
Avec toi.
Avec moi, effectivement, mais moi, je ne compte pas, je ne suis pas d'un
Ouais.
participant, fait que
Oui,
je
c'est vrai.
m'élimine. Donc, suivi de Martin Chagnon avec 925 et Patrick Tourangeau à 916. Donc, c'est assez chaud. On va savoir si ça va changer dans le dernier classement. On va vous annoncer ça la semaine prochaine, le gagnant, et on fera également un tirage pour les prix de présence qu'on vous a parlé. Donc, ça va être la semaine prochaine. Donc, restez à l'écoute, tous ceux qui ont participé, plus de 100 participants, c'est quand même pas rien. Et on aura de belles surprises pour vous.
Oui, tout à fait. Puis après ça, bien, comme je disais, on va prendre un petit tarif estival, puis on recommencera probablement ça l'année prochaine, au début de la saison de hockey, de la Ligue nationale de hockey. Puis on verra qu'est-ce que pendant l'été, là, on mettra sûrement une discussion sur le Facebook pour nous dire qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez moins aimé, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on transforme, qu'on change, et on prendra ça en considération pour le deuxième pool officiel. Pour le pool de jeux de société qui ça fait une première année de test. Moi, en tout cas, j'ai appris des choses.
Oui,
Puis
tu
l'année
joues dans
prochaine,
Martin Race, c'est quoi ta position, Martin?
Ah non, non.
Non, non, non.
Non, c'est pas obligatoire, Martin.
Ah, mais quand même, tu es dans le top 100, Martin. Tu es
Ben oui.
89e.
En 89e, j'ai gagné quelques
Ah
positions.
oui, quand même.
Ben, c'est sur 130, je pense.
Quelque chose comme ça.
Ouais, fait que je suis pas. Ça a été une déception, mais c'est normal, hein? Je perds toujours dans les jeux. Donc,
Ouais, il faut dire que tu te rapprochais et tu n'as pas fait d'échange. Hein, parce que moi, j'ai fait quand même un bond de 200 quand j'ai fait des échanges. Donc, ça aurait pu être plus corsé que ça. Tu es comme
ouais.
à indiquer.
Oui, j'ai abdiqué, je dois avouer. J'ai abandonné. Voilà. C'est pas mon style, mais pour ça, je l'ai fait. L'année prochaine, je vais revenir en force.
Je compte bien sur toi.
J'espère.
Donc, oui, on va bientôt la fin du podcast. Et là, ne soyez pas triste. Ça va être pour mieux revenir en force avec de nouveaux concepts. On aime ça de faire des concepts, Martin. On est des hommes de concepts. Ça va peut-être aussi se professionnaliser, comme on avait dit. On a parlé de t-shirts, on a parlé de. Je ne sais pas, là, on va prendre le temps d'y réfléchir, mais laissez aller vos suggestions et on va essayer de prendre ça en considération dans notre réflexion durant l'été.
Oublie pas que ce n'est pas la fin de la saison, hein. Ce n'est qu'un arrêt dans notre saison 3.
Ah, c'est compliqué ça, Martin. Je perds mon latin, là.
Non,
Donc,
nous autres, on a décidé que c'était du 1er janvier au 31 décembre. C'est ça, les saisons.
c'est correct, c'est correct.
Donc, on est au milieu de notre troisième saison. Et la quatrième, ben, deuxième, troisième saison, Martin.
Troisième.
C'est la troisième saison qu'on
Parce
fait.
qu'on a eu une demi-saison la première année. On a
Oui, c'est
une
ça.
année complète, puis on est dans la
Exact.
deuxième année.
Voilà.
OK. Est-ce que Martin, t'es-tu genre à nous partager une controverse avant de commencer notre sujet
Ouais,
principal?
ben, j'ai deux choses à te parler. Je vais te parler d'un jeu qui sort très bientôt qui s'appelle Mr. President, The American Presidency 2001 à 2020 qui était mentionné beaucoup dans les médias sociaux parce que les gens, je pense qu'ils l'ont backé. L'ont reçu. C'est un jeu de la compagnie GMT. C'est un jeu qui est strictement en solo de Gene Billingsley et c'est un jeu qui est coté 4,14 sur 5. Et quand j'ai regardé ce jeu-là, qui prend, je pense, deux tables de grosseur, ben, en tout cas, j'en mets un peu, mais qui remplit une table pour un jeu solo, ça a l'air d'un jeu ultra compliqué et ça me tente, Martin. Ça a l'air tellement le fun.
Hey, moi, je viens de voir de quoi qui me fait peur, un peu peur, là. 360 à 600 minutes.
Oui, on parle de 6 à 12 heures. une partie,
OK.
dépendamment du scénario que tu fais. Et quand j'ai parlé justement à JP ce matin, parce qu'on en a parlé ce matin dans le podcast, je lui ai dit, ça va être mon premier live d'un jeu de 12 heures.
Non,
Donc, cet été, je veux faire ça. Je veux vraiment faire une partie live complète de ce jeu-là. Mais il a l'air vraiment très beau. Ça reste un jeu avec des jetons, là. Mais pour un jeu
ouais,
de
mais il est un peu dans
stratégie,
l'esprit de hégémonie, mais beaucoup plus chargé. C'est vraiment impressionnant. Martin, ça ne me dit rien, mais maintenant que je garde l'image, là, je le veux moi aussi.
ah, mais en tout cas, moi, écoute, quand j'ai vu ça, j'ai fait comme, j'ai jamais entendu parler de ce jeu-là. Là, je le vois, je le veux. Il va être à peu près une centaine de dollars. Il y a quand même plusieurs plateaux. Et là, après ça, j'ai vu le livre Boudiné. Et je pense que c'est le livre des règles
Oh boy.
qui est Boudiné parce que je pense qu'il est. JP m'a dit que c'est un jeu à charte. Donc,
Oui.
il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas ce type de jeu-là. Mais moi, ça m'intéresse vraiment. Moi, j'aime beaucoup les jeux politiques, c'est comme Hégémonie. J'ai vraiment
Mais
trippé
c'est
là-dessus.
vraiment de ce style-là. Je regarde, là, il y a une piste nucléaire, il y a
Oui.
une piste de l'opinion publique mondiale, il y a une piste des relations avec le Congrès, il y a une piste des médias, il y a une piste de Homeland Security, il y a une piste d'économie. On n'a pas fini, là.
Ah non, puis là, tu as une carte du monde avec différents endroits sur la planète. Puis de ce que je peux voir, c'est donc tout ce qui s'est passé des années 2000 à 2020. Donc, on se rend jusqu'à Donald Trump, si j'en comprends bien. Donc, je ne sais pas si on va avoir les vrais personnages. Je ne sais pas comment ça va fonctionner. J'ai suivi un cours de 45 heures à l'université, Martin, sur la politique américaine. Ça me tente, et là, il y a beaucoup c'est comme les jeux vidéo, il y a énormément d'excellents jeux de société qui sortent cette année. Ça va être intéressant de retourner voir qu'est-ce qu'on a dit dans les autres années, mais ça va être aussi cool de revoir dans plusieurs années quand on va regarder là, avec tous les jeux de société qui sortent, qui sont, tu sais, Legacy of You, que ce soit Isotherian Guard, que ce soit tous les autres jeux là, qui sortent puis qui viennent nous intéresser. Je trouve qu'on est dans une belle période de jeux de société.
C'est drôle, j'ai fait une vidéo samedi, puis j'avais cette réflexion-là. Je trouve que la tangente des jeux de société est excellente, là, de la façon que ça se développe. Et je pense que cette année, j'ai jamais, en tout cas, il n'y a pas une expérience qui m'a vraiment déçu. Puis je vais de surprise en surprise en surprise. Je pense que c'est ma meilleure année au niveau des sorties de jeux de société depuis la création de ma chaîne.
Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, Martin. Puis justement, je l'ai regardé là, très vite, 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 tous les jeux que j'ai joués. Tu sais, que ce soit Lord of the Ring, Adventure Book Game, je t'ai parlé la semaine dernière, que j'ai vraiment adoré.
Sorti complètement de nulle part.
In the Footsteps of Darwin, Keep the Heroes Out, que moi j'ai joué, tu sais, qui n'était pas nécessairement sorti cette année. The Witcher Old World, que j'ai bien aimé. Tous les jeux à date, The Isotherian Guard, c'est tout intéressant. Celui-là, je ne sais pas s'il est bon, là. J'en ai aucune idée, là. Il est coté 8,4, mais c'est assez intriguant. Puis en plus, c'est un solo.
C'est rare, un solo, uniquement solo pour une grosseur de jeu-là, c'est impressionnant. Mais ça semble être un jeu vraiment à la Wargame GMT, là.
Exact, exact. C'est un style. Il faut que vous aimiez ce style-là. Mais si vous aimez ça, je pense que là, vous allez être servi avec quelque chose d'assez impressionnant. En tout cas, je te reviens, c'est sûr et certain, Martin. Puis je t'en reparle aussitôt. Je pense qu'on me semble que JP m'a dit qu'il sortait là, dans les prochains jours, prochaines semaines.
Incroyable. OK. Si tu avais deux jeux, tu me parlais, celui-là et un autre.
Ah oui, l'autre, c'est une
Controverse!
controverse Ouais, je suis pas très original là-dessus.
Non, c'est comme du déjà entendu, mais c'est toujours aussi bon.
Je ne sais plus quoi faire, Martin.
Je te comprends, tu fais ça une fois que tu le fais.
Oui, c'est ça, je te dis. C'est notre brand. C'est notre brand, mais qui est moins fort depuis quelques temps, parce que moi, j'en vis moins de frustration. Mais là, il y a des gens qui vivent beaucoup de frustration, Martin, parce
Là,
que.
c'est pas une controverse de toi, donc c'est une
Non.
controverse de nos abonnés.
Oui, c'est ça. Puis quand je l'ai lu, j'ai vraiment été choqué. Alors, c'est notre amie Carole Campagnat. Qui est un habitué qu'on connaît, que j'ai dû rencontrer souvent, très sympathique, qui dit, Martin, comme controverse de la semaine, tu peux parler de la livraison inexistante au Canada du jeu Ibris, qui est pourtant vendu, semble-t-il, en magasin depuis à peu près Déjà 3 semaines.
Tu parles des backers, là.
Oui.
C'est parce que c'est un jeu que j'ai couvert, tu sais, je t'en ai parlé la dernière fois.
Moi-même,
j'ai pas eu de contact encore avec l'éditeur. Il m'avait dit qu'il allait m'envoyer de quoi. Je sais même pas si je suis sur les envois. Il faudrait bien que j'écrive parce que depuis le temps, je pense que j'ai déménagé, je peux à la même adresse. Donc, j'ai des chances que je ne le reçoive jamais. Ah, oui.
Ben, je comprends. Je comprends la frustration. Puis il y en a une autre frustration aussi cette semaine Vampire la Mascarade Chapters.
C'est un jeu québécois, ça.
Un jeu québécois dont le premier, la grosse première boîte qui va coûter 239 $. La campagne s'appelle Montréal parce que le jeu se passe entièrement à Montréal. Je trouve ça intéressant. Et le jeu va sortir en magasin le 30 juin prochain. Et les backers, semble-t-il, ne l'ont pas encore reçu. Et notre ami Trigan a présenté le jeu. Puis c'est un jeu qui sort en français, d'ailleurs. Et en anglais en même temps, puis il y a beaucoup de textes. Hein. J'ai vu que c'est un gros jeu là, avec c'est une grosse boîte. Là. Je pense qu'il y a des centaines d'heures de jeu. J'en mets peut-être un peu, mais en tout cas, on verra. Puis il y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, n'ont pas été contents qu'Etrigan le reçoive avant parce que les backers ne l'avaient toujours pas reçu
Ouais, ça, c'est...
encore.
Pourquoi c'est contraignant? C'est un peu normal que les reviewers le reçoivent avant si on veut qu'ils le présentent.
Oui, mais Martin, tu sais, hein, il y a ce sentiment-là par plusieurs personnes de toujours se sentir un peu... Ben, en même temps, je peux comprendre la frustration de voir quelqu'un qui n'a pas backé le jeu, le recevoir de la compagnie, alors qu'eux autres, ils ne l'ont pas encore reçu. T'sais, parce que c'est un Kickstarter. Moi, je pense que c'est pas pareil qu'un jeu qui sort en boutique qu'un reviewer reçoit avant.
Oui, mais il va sortir en boutique, puis peut-être que ce qu'il a reçu, c'est peut-être la version boutique pour promouvoir le jeu, je ne sais pas. Mais
Oui, c'est ça.
Moi, je n'ai pas reçu le jeu, puis j'avais été contacté par l'auteur, un des auteurs, je vais compter l'anecdote, parce qu'elle est juste cocasse, mais c'est rien là, de péjoratif et de personnel, mais
Ouais.
il m'avait communiqué, je pense que tu en avais déjà parlé.
Oui.
Oui, c'est ça. Puis durant la campagne, il voulait que je fasse une couverture. C'était dans le temps que je faisais beaucoup de couvertures de Kickstarter. Je dis pas de problème, je vais tout faire ça. C'était en plein hiver. Il me dit, ben, tu peux-tu venir chez nous pour faire l'entrevue? Je dis, OK, envoie-moi l'adresse. Je pack mon auto. Je déblaye mon auto du banc de neige. Je m'en vais dans le milieu du plateau. Je tourne en rond pendant 10 minutes pour trouver une place.
Ouais.
Je me trouve un trou en me faisant un trou dans la neige. Je arrive chez eux avec tout mon matériel, la caméra, le patatlan. Et là, je sonne et ça répond pas.
Oh non.
Et je sonne et ça répond pas.
Je me souvenais pas de ça.
J'ai fait,
Oh.
Je l'ai écrit, j'ai pas eu de réponse. Je dis, OK, je réembarque dans mon char, je m'en retourne chez nous. Le lendemain matin, il me réécrit, il me dit, ah oh, zut, je m'excuse, je me suis endormi.
Oh.
Alors, ça a
Oh.
été ma couverture du projet de Kickstarter.
Il n'y a pas eu de retour après ça.
Il n'y a pas eu de retour après ça, non. Ben, il s'était quand même excusé, puis je pense qu'il m'a envoyé quand l'autre a sorti. C'est eux qui avaient fait Day by Daylight, la première version du jeu. Puis
ah oui, OK.
Il m'avait envoyé le jeu. Mais non, tout ça pour dire que ben, ça a fini là, malheureusement. J'ai pas eu. Donc, j'ai pas reçu le Kickstarter non plus.
Tu sais, je dois te dire que je suis d'accord avec toi. Moi, je suis Trigane qui reçoivent des jeux. C'est totalement normal. Mais c'est sûr que c'est pas normal que des gens se fâchent après un créateur de contenu parce qu'il reçoit un jeu. Ça, je trouve ça un peu déplorable. Mais je peux comprendre la frustration des fois des gens en lien avec le socio-financement.
On va en parler d'un aujourd'hui qui a eu le même. Parce que j'ai passé la revue là, des jeux qu'on va passer. Puis un des qui est arrivé la même chose pour moi, c'est Assassin's Creed. C'est un éditeur québécois. Puis il m'avait amené, il ne me l'avait pas donné, il m'avait passé sa copie pour que je puisse le présenter avant qu'il arrive. Je pense que c'était même la copie de production avant qu'il arrive, même avant qu'il parte en production. Là. Fait que je l'avais eu beaucoup en avance. Fait que oui, ça peut être. Peut être frustrant, mais par contre, ça permet aux gens d'avoir un aperçu de ce qu'ils vont recevoir et de la qualité
Ouais,
du jeu.
exactement. Puis, juste avant qu'on y aille avec notre sujet, parce que c'est pour être notre petit sujet d'aujourd'hui,
Oui.
ce matin, notre ami JP de l'École du jeu a sorti une vidéo où il parle de tous les tabous des créateurs de contenu, qu'on appelle aussi des influenceurs. Et c'était. C'est intéressant de voir des fois cette discussion-là par rapport au financement des chaînes. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions par rapport à la transparence, par rapport à tu sais, quand on critique, il faut être transparent pour dire où on reçoit un jeu. Mais ça me fascine aussi toujours de voir, parce que là, c'est public, je peux le dire, il l'a dit dans sa vidéo, qu'il reçoit entre 300 et 500 $ pour faire du contenu demandé par un éditeur. Et ça, le contenu, ça peut être de toutes sortes. Là, il parlait de présentation du jeu, de présentation de ce sous-financement. Puis là, ben, c'est pas que je veux mettre ça dans l'univers, là, parce que je pense qu'il faut quand même dire que toi et moi, Martin, nous autres, on soit 0 $ des éditeurs.
Parce qu'on ne les sollicite pas, remarque, là aussi. Puis ça, c'est une volonté éditoriale pour avoir un peu plus le champ libre dans ce qu'on dit. Je ne dis pas qu'éventuellement, on ne regardera pas pour ça. Mais puis je te dirais que 300, 500, c'est dans le bas de la fourchette de ce que le monde charge. Parce que moi, je fais affaire avec des créateurs de contenu soit le Scorpion, soit Randolph, ou soit Hachette. Puis ça varie c'est plus autour de 1000, 1200, là, les coûts, c'est dépendamment des marchés, si on est du côté américain ou du côté français. Le côté québécois, on est vraiment dans le bas de la fourchette de ce qui est présenté. C'est un long débat, ça, Martin. On pourrait en faire une émission complète là-dessus, je pense.
Mais c'est tout un
Puis.
débat, c'est un débat sur, où on marche tout le temps sur des œufs, où on dirait qu'on fait attention parce que on ne veut pas froisser des gens, parce qu'il y a beaucoup de négativisme, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, il y a beaucoup de négativité sur le fait que certains créateurs de contenu se font payer. Puis moi, ma vision a toujours été la même. Si la personne ne fait pas une critique, si la personne ne. Tu sais, mettons, tu fais. Mettons que tu dis, j'ai reçu et j'ai été payé par Lucky Duck Games pour parler de tel jeu, puis là tu fais une critique, c'est sûr que c'est plus biaisé comme vision parce que tu as reçu de l'argent. Habituellement, quand tu reçois de l'argent, tu ne vas pas nécessairement parler en mal de la compagnie. Et quand c'est une présentation, tu sais, d'une certaine façon, je ne sais pas quoi penser à 100% de cette situation-là. Même moi, je me suis toujours posé cette question-là, puis moi, j'ai consciemment décidé de ne jamais me faire payer en argent, mais moi, je demande des jeux, parce que je me suis dit que c'est la matière première de ce que je fais, c'est de présenter des jeux. Mais j'ai jamais eu le désir de me demander de l'argent, mais est-ce que ça fait en sorte que les gens qui en demandent, c'est pas bien? Je pense pas.
Ouais, c'est parce que nous, on raisonne sur le fait que c'est un passe-temps pour nous. On fait ça après notre profession.
Oui.
T'en vis pas. Il y a des gens qui, ben, je pense au monde de jeu, ils ont décidé de se consacrer à temps plein là-dedans. Puis c'est leur principal gagne-pain. Ils font pas que ça, mais c'est ça. Donc à ce moment-là, t'as pas le choix de trouver la façon de rémunérer cette activité-là. Puis c'est une activité commerciale de marketing comme n'importe quel autre média. Donc oui, il faut trouver le moyen de rentabiliser ça. Sinon, ben on va aller faire d'autres choses. Donc il y a un juste milieu. Puis je pense que c'est nouveau de la transparence. Je pense que c'est ça la clé, c'est d'être transparent dans ce qu'on présente. Mais j'aimerais ça voir, ça serait quoi le. Tu sais, dans le cinéma, il y a quand même des critiques de cinéma ou des critiques de restaurants qui, eux, sont très. Tout le monde est un peu ses dents quand ils rentrent dans ta pièce, dans ta salle de théâtre, parce que tu te dis, ah, oh, ben là, tu sais, il faut faire attention à telle personne, puis on ne sait pas comment ça va sortir le lendemain. Les pièces de théâtre de Broadway, c'est la même chose. Pourquoi on n'a pas le même système en parallèle où ce que quelqu'un qui est vraiment une indépendance qui dit absolument tout ce qui passe par la tête par rapport à un jeu, il y en a, mais je sais pas.
Ben, tu sais, dans le monde du jeu vidéo, Martin, là, tu sais, maintenant, j'écoute une chaîne qui s'appelle Young Yeah. Okay? Young Yeah, c'est un gars qui fait. Il fait de la publicité, pas de la publicité, il fait de l'actualité. Il commente l'actualité. Il va se passer quelque chose contre Ubisoft, il va se passer quelque chose contre Blizzard, mettons. Puis là, il va être critique, puis il va faire des recherches. C'est vraiment excessivement bon. Si vous êtes des amateurs de jeux vidéo, c'est un gars qui critique. Écoute, Martin est rendu à plus d'un million d'abonnés. Puis, qu'est-ce qui fait en sorte que. Puis, ces vidéos sont commanditées, là, parce qu'on le voit. Puis, ce qui est très fort dans le monde américain et de plus en plus canadien, anglophone, c'est qu'ils sont commandités, mais pas par des compagnies de jeux. par un service de nourriture congelée.
Ah oui. J'en ai plein de ça. Tous les podcasts, on les écoute, c'est rendu ça.
Exactement. Donc, leur argent, ils ne la font pas de leur matière première, ils la font avec d'autres sources. Tu sais, à un moment donné, j'écoutais un gars qui s'appelle Screen Crush, qui lui raconte toutes les Easter eggs, par exemple, de toutes les séries de Marvel qu'il y a. Puis lui, c'est comme à un moment donné, c'est acheter un lapin de terre au Royaume-Uni, puis vous allez devenir un lord. Puis là, ben, c'est pendant une minute, ils font la présentation de ça, puis c'est une publicité qui leur rapporte de l'argent, mais qui n'a rien à voir avec le domaine dans lequel ils sont. Donc, ils peuvent conserver leur indépendance parce que l'argent qu'ils reçoivent n'est pas l'argent de l'industrie du cinéma ou de l'industrie du jeu vidéo. Est-ce que c'est vers ça qu'on devrait, nous aussi, peut-être se diriger pour garder notre indépendance par rapport à ce qu'on fait sur YouTube, par exemple?
C'est un avenue, c'est un débat qu'il faudrait lancer. Mais tu sais, c'est pas unique aux jeux de société. Tous les YouTubers qui font des vidéos de mascara, de linge, de peu importe, c'est toutes des compagnies qui leur envoient ça. Ils ne sont pas toutes rémunérées pour le faire, mais à partir du moment où ce que t'es L'Oréal t'envoie un paquet chaque semaine, tu n'as pas le choix de parler de L'Oréal. Donc, ça fait partie de l'échange de services, mais de plus en plus, il y a de l'échange d'argent en plus. Donc, et où est-ce qu'on tire la ligne entre les deux? C'est ça qui est touché.
Je continue de dire, Martin, que tout est une question d'argent.
C'est tout le temps ça, Martin.
Parce que, non, mais...
Le mieux, c'est pas en avoir ou en avoir trop. Ça pose plus de problème.
Oui, mais... Non, mais ce que je veux dire, c'est les jeux vidéo, toutes les compagnies de jeux vidéo envoient des codes. Là, c'est sûr que tu vas me dire que ça leur coûte pas cher, mais...
Ça coûte plus rien.
Mais il reste quand même que le jeu coûte... maintenant, c'est rendu 90$ un jeu, Martin. Donc, ils envoient des codes à des reviewers. Donc, il n'y a aucun reviewer sur YouTube qui achète des copies. Il y en a un qui s'appelle ACG qui, lui, dit qu'à chaque fois qu'une copie est envoyée d'un éditeur de jeux vidéo, il achète une copie pour leur donner à quelqu'un. Lui, c'est comme ça qu'il dit qu'il fait qu'il garde sa liberté.
Mais tu l'as, là, Martin, la solution.
C'est quoi?
Ben, on va arrêter de faire des jeux et on va tous s'en aller sur des plateformes numériques.
Ben, ça pourrait, parce que c'est déjà pas mal gratuit. Non, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est que, tu sais, eux autres, le monde jeu vidéo, tout le monde sait qu'ils reçoivent les jeux gratuitement, les jeux. OK? Puis d'ailleurs, il y a beaucoup d'éditeurs qui envoient leurs jeux gratuitement. Mais je pense que c'est quand il y a un échange d'argent sonnant et trébuchant.
Et trébuchant, oui.
Que là, là, on dirait que ça crée problème. Tu sais, puis en tout cas, on pourrait en reparler pendant des heures et des heures. C'est un
si
sujet.
Tu veux, on peut continuer le sujet là-dessus. Hein. Il n'y a pas de problème.
Non,
c'est comme
non.
Tu veux.
C'est très ennuyant parler d'argent et tout ça. Puis on dirait que c'est toujours le côté négatif. Puis j'haïs ça parce que toutes les gens qui font du contenu, ils le font par passion.
Oui, je pense que oui. Avant tout, c'est de la passion qu'on partage. Ça, c'est clair.
Exact.
Mais ça, c'est une question qui est légitime, effectivement. Puis le jeu de société, c'est pas un médium qui est très lucratif là, au bout de la ligne. On parle de l'argent, mais je n'en vis pas de ça. Là. C'est anodin ce que tu ramasses. Là.
Tout à
comparativement
fait.
À d'autres médiums. Martin, y va-tu avec notre sujet principal?
Ben, je vais parler un petit peu de la boutique La Pioche, ça te tente?
Ben oui, j'attends après ça avec impatience.
Puis après ça, bon, on ira avec notre sujet.
C'est bon, j'écoute.
Il est temps de vous parler de notre extraordinaire commanditaire, boutique de jeux La Pioche. Ben, Martin et moi, on est vraiment super contents d'être associés à Jean-Philippe et à sa boutique, parce que Jean-Philippe est vraiment une personne qui nous ressemble à tout point. C'est une personne excessivement passionnée, tellement passionnée qu'il a décidé d'ouvrir une boutique de jeux afin de pouvoir nous permettre de profiter de ses extraordinaires services. Alors, la boutique de jeux La Pioche, c'est un site internet, mais c'est aussi une boutique physique que vous pouvez donc vous rendre directement dans la région de Québec. Si vous allez faire un tour dans cette magnifique région, ben, vous avez juste à vous rendre au 106 boulevard René-Lévesque-Ouest à Québec afin d'aller voir Jean-Philippe en action. Sinon, vous pouvez vous rendre au www.boutiquelapioche.com et là, vous allez pouvoir vous rendre compte que son site internet, moi, je l'aime énormément. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, tu as accès à toutes les nouveautés. Donc, si tu veux savoir ce qui vient de sortir, tu cliques sur « Nouveautés » et là, tu vas avoir plein de produits qui vont apparaître devant toi, qui sont des nouveaux jeux. Et ce qui est le fun de ce fameux site Internet, c'est qu'en plus, on voit le nombre de jeux qu'il y a en stock. Donc, il n'y a pas de surprise. On clique, on le sait qu'on peut l'acheter et en plus, les prix sont excessivement compétitifs. Mais ça ne s'arrête pas là, hein, parce que si, par exemple, vous êtes un petit peu tanné des socio-financements puis peut-être de socio-financer des années en avance, bien, il y a aussi une section qui s'appelle précommande. Et là, vous avez une panoplie de jeux. Plusieurs qui viennent d'ailleurs de socio-financement parce que JP va s'occuper de faire ce qu'on appelle un pledge groupé magasin. Comme vous pouvez vous rendre compte, sans farce, boutique de jeux La Pioche, c'est un magasin qui est vraiment le fun. Des gens passionnés, des prix compétitifs. Allez faire un tour. Je vous rappelle encore une fois, www.boutiquelapioche.com ou bien vous pouvez vous rendre directement au 106 boulevard René-Lévesque-Ouest. Alors voilà, merci beaucoup JP de nous faire confiance et on y va avec le prochain segment de notre émission.
Alors Martin, est-ce que tu es prêt à faire l'exercice de revenir dans le passé, tel que discuté? On parle de mai 2021, on a commencé notre premier podcast totalement sur un coup de tête.
Non,
pas du tout.
C'était pas sur un coup de tête. Arrête Martin, tu as passé un été à réfléchir à ça.
Oui. Mais on ne savait pas trop quand même la structure de comment on allait faire ça. Ouais. On ne se parlait pas aussi. Même chose que ça, ça n'a pas vraiment changé. On ne prépare pas, on n'a pas de... On fait notre podcast puis on sait ce que chacun va dire de son côté, mais il n'y a pas de communication. On apprend ça live, puis c'est la beauté de la chose, c'est qu'on réagit spontanément à ce que l'autre amène sur le sujet.
On n'a pas de
commencé comme ça. C'est ça. On a commencé comme ça, puis on est resté fidèle à ça, puis je pense que ça va bien là-dessus.
Pour l'instant.
Alors, je te propose de passer à travers nos 25 premiers épisodes, puis de faire le retour sur les jeux qu'on a couverts, à savoir si c'est des jeux que, bon, à l'époque qu'on avait bien aimés, est-ce qu'ils sont restés, est-ce qu'ils sont encore dans notre ludothèque, est-ce qu'on y a rejoué depuis. C'est sûr que, bon, on n'a pas la chance de revenir souvent dans nos vieux jeux, mais de temps en temps, tu m'as parlé de Legendary, on y revient de temps en temps, ou du moins, on a le goût d'y retourner, puis donc on garde la copie dans notre ludothèque. Alors, Martin, on a commencé ça avec un jeu, c'est drôle parce que je pense que le premier jeu qu'on a couvert, c'est un jeu qu'on a fait ensemble, mais sur une copie non physique. C'était une copie, on avait fait un live avec David de Lord of Waterdeep sur la plateforme Steam, je pense. Donc, moi, j'ai toujours ma copie de Lord of Waterdeep. Pour moi, c'est une référence de placement d'ouvriers. Malheureusement, c'est pas disponible en français encore. J'ai une extension du jeu, puis quand j'ai besoin d'introduire quelqu'un dans un jeu de placement d'ouvriers, j'aime beaucoup le sortir, mais je ne le sors pas souvent. Est-ce que toi, tu as encore cette copie-là dans ta ludothèque?
Lord of Waterdeep fait effectivement encore partie de ma ludothèque. Je l'ai encore. Ça reste un jeu qui partira jamais. C'est un classique que j'ai sorti. Ça doit faire plusieurs années que je ne l'ai pas sorti encore, mais c'est le genre de jeu que... C'est un jeu à thématique Donjons et Dragons qui fonctionne bien. Moi aussi, je pense qu'il y avait deux extensions qui ont sorti en tout, puis j'ai les deux. Et c'est un jeu où on est supposé de générer des guerriers, des voleurs, des magiciens.
Du noir, du mauve, puis
c'est
du...
Ça. Ça finit par être des cubes oranges, des cubes bleus, puis des affaires comme ça. Mais c'est un jeu très, très cool. Et la version numérique est très bonne aussi. Là. Je sais qu'on l'avait joué, je pense que c'était David qui faisait un épisode là, d'une présentation. Puis hey, tu me rappelles ça, ça fait quand même. Ben, c'est ça, ça fait deux ans.
Ça fait deux ans.
Fait que c'est la dernière fois que j'ai joué à Lord of Waterdeep. Fait que je n'ai pas rejoué depuis ce temps-là, mais il est toujours dans ma ludothèque.
Donc, c'est un bon point de départ pour ceux qui veulent composer une ludothèque. Je pense que ça fait partie des classiques. Un incontournable. Ouais. Martin, on avait un épisode assez chargé avec beaucoup de gros jeux. Alors, je te donne ça en rafale. On a parlé de Sleeping Gods.
Déjà
à cette époque-là. Donc, inutile de dire que ça, c'est resté dans nos ludothèques, puis ça fait partie de nos... c'est encore tôt pour le placer. Je ne sais pas si tu as fait un top depuis. Est-ce qu'il est haut dans ton top?
Il est assez haut dans mon top, oui. Je l'ai refait, je pense, l'année passée. Puis il est dans les hauts, parce que c'est un excellent jeu solo. Même si c'est la gérer. Et maintenant, avec la version française, c'est encore plus fun. Mais il y a un Forteller qui est sorti en anglais. Fait que je suis quasiment déçu d'avoir...
Avec la version 1.5.
Avec la version 1.5, je ne sais pas. Non, je pense que ça, c'est juste du renégat.
OK.
La problématique, malheureusement, Martin.
Ensuite, tu nous as amené vers Red Rising de Stonemaier Games,
Oui.
que tu m'avais passé. J'ai eu la chance d'essayer avec ta copie. J'avais bien aimé, mais je suis resté à la version de base du jeu qui était Hero, non pas Hero Realms, c'est Fantasy Realms. Et moi, j'ai été avec le nouveau qui est sorti, qui est Remix,
Oui,
dans
Marvel
l'univers de.
Remix.
Exactement. Est-ce que tu as gardé ta copie de Red Rising?
J'ai gardé ma copie parce que moi, j'ai beaucoup aimé ce jeu-là. Je trouve que le solo est très bon. La production, j'avais la version de luxe, là. Puis non, c'est un jeu qui, encore aujourd'hui, pour moi, est haut placé dans les expériences solo. Et j'ai eu la chance de jouer quelques fois avec Hélène. Puis c'est le genre de jeu-là que, tu sais, Martin, il y en a qui critiquent beaucoup ce jeu-là parce que c'est très aléatoire, mais c'est ça qui est le fun. C'est que tu pars avec une main de carte, puis qu'est-ce que tu vas faire avec ce que tu as? Fait que c'était.
J'aime ça, moi, ça.
Ouais, moi
Parce
aussi.
que ça fait en sorte que tes parties ne sont jamais pareilles, que tu ne peux pas nécessairement tout planifier, tout organiser. Il faut toujours que tu aies un plan B, puis tu réagis à ta situation de carte. J'haïs pas ça. J'ai appris à apprécier ces expériences-là qui sont un peu plus chaotiques où il y a beaucoup d'aléatoires, mais finalement, ça fait partie du jeu.
Exact.
Tu n'as pas le choix de t'adapter.
Ouais.
Tu as parlé de solo, ben c'est drôle parce que le deuxième épisode, c'est un spécial solo
Hey.
qu'on a pas. Ben oui, on a fait un spécial solo. Je ne reviendrai pas sur les jeux qu'on a parlé là-dessus, mais c'est intéressant de savoir qu'à déjà à l'époque, ça faisait partie de nos. Je pense que l'identité, l'ADN de ta chaîne et de la mienne en partant.
Oui, oui, oui. Oui. Et ça, c'est sûr. C'était pas ça le but au départ, mais puis je pense que le jeu solo, on l'a dit souvent, là, il s'est beaucoup développé. Il a l'air d'avoir un petit recul. Et que là, je regarde Mr. President, puis je me rends compte qu'il y en a encore qui veulent faire des gros jeux solo.
Legacy of You, prends juste
Ouais,
ça, ça, je
effectivement.
pense que c'est en train de briser des barrières.
Oui, tout à fait.
Ensuite, niveau épisode 3, on est arrivé avec. Bon, là, tu ne pouvais pas t'en passer, c'est sûr et certain, parce que tu reviens souvent vers cette compagnie-là, et c'était donc Chapter Game, mais cette fois-ci, c'était Splice and Dice que tu venais de recevoir. Est-ce que
Ah, OK.
tu l'as essayé, celui-là, un peu?
Oui, ben Martin, voyons, c'est Too Many Bones, Splice and Dice. C'est sûr que je l'ai essayé, sauf que Splice and Dice, c'est un spin-off, on pourrait dire. C'est un side à Too Many Bones. Donc, c'est Nebulus qui veut construire le monstre parfait. Donc, c'est un jeu où on joue des. C'est Labrat, finalement, qui tente de construire un baddie parfait.
Frankenstein.
Ouais, puis tu peux réutiliser ce baddie-là dans une de tes parties de Too Many Bones. Moi, j'ai pas trop trippé sur Splice and Dice en tant que jeu, en tant que side, je sais pas comment dire ça, jeu à côté. Mais le fait de rajouter le concept quand tu joues avec les règles de Splice and Dice dans Too Many Bones, que tu peux construire au fur et à mesure un baddie en tuant des différents méchant que tu vas affronter, ça va délimiter le baddie que tu vas battre à la fin. Ça, c'est cool. Ça, c'est le fun. Je l'ai fait avec Hélène. On ne s'est pas rendu malheureusement à la fin, mais
Tu l'as
c'était
jamais
cool.
affronté finalement.
Non, on ne l'a jamais confronté, mais c'était cool de voir la construction de ce baddie-là. Fait que Splice and Dice, le jeu en tant que tel, il est moyen, mais le genre de petit ajout pour le jeu de Too Many Bones, c'est très, très, très réussi.
L'idée est bonne, c'est ça.
Oui, très, très bien.
Après ça, Martin, on s'est rendu. Ben moi aussi, j'ai le jeu Splice and Dice, j'ai jamais joué, mais je l'ai puis je l'ai gardé.
Ouais,
Pour
ça
moi,
c'est toi un petit peu.
ça fait partie des extensions. Puis des extensions, je ne suis pas un consommateur d'extensions pour moi.
Cloudspire, t'es rendu où dans tes parties? OK, passons.
Oui, passons. J'ai joué avec toi, Martin.
Oui. Il y a un épisode qui sera jamais présenté d'ailleurs.
Hey, c'est vrai, on avait
Hein?
enregistré ça, puis on a jamais fini l'enregistrement parce que ça avait comme duré trop longtemps.
Trop longtemps, on a fait une grosse erreur de règle.
Ah oui, puis on
Puis
s'est dit, on va recommencer.
on va recommencer. Puis ce soir-là, il y avait du verglas. Tu étais venu chez moi, puis il y avait du verglas. Il a fallu que tu te retournes chez toi. Et c'est une soirée qui était le fun parce qu'on était ensemble. Mais on verra jamais cette vidéo-là.
On a joué quoi, un bon 4-5 heures certains.
C'était une soirée. On avait joué à 3 heures, je pense.
Ah ouais,
Ouais.
ok.
Puis là, on s'était rendu compte que. Oh! Ah non! On a fait ça depuis le début, oublie ça.
On peut pas faire ça, on met pas ça en ligne.
Non.
Tout est enregistré. Ce serait le fun d'y retourner, par exemple, à un moment donné.
Oui. C'est un excellent jeu.
Exact. On va rester dans du gros jeu aussi, parce que l'autre, c'est un Lacerda. C'est probablement un de ses plus complexes. C'est On Mars. Je pense que c'était toi qui l'avais présenté à l'époque. C'était ta première expérience du jeu.
As-tu joué, toi?
J'ai joué On Mars qu'en solo. Moi, je ne l'ai pas trouvé si complexe que ça. Je trouvais la mécanique intéressante. J'ai fait peut-être trois parties. Je n'ai pas joué avec l'extension. J'ai tous les Lacerdas que j'ai, je les ai gardés. J'ai pas, celui que j'ai pas, c'est le dernier qui vient de sortir, qui est Water Machine.
Ah ouais, c'est ça, donc je n'ai pas essayé encore. Mais c'est très bon, On Mars. Moi, j'ai rejoué cet automne avec l'extension Alien Invasion, qui est une bonne extension. En tout cas, moi, pour la version solo, que ça a rajouté un petit élément là, que j'ai bien aimé. On Mars, ça reste un très bon jeu. Un des meilleurs, je pense, de la série, même si il me reste Lisboa à essayer, puis Vignos. Vignos, je l'ai. Mais Lisboa, je ne l'ai pas. C'est les deux qui me restent à essayer dans cette gamme-là. Et le dernier qui vient de sortir, là, qui est en sous-financement présentement.
Ouais, il y a une campagne présentement. Oui, mais là, c'est sûr qu'on ne l'a pas joué. Hein, on ne l'a pas.
Non, mais non, on ne reçoit pas des jeux de Eagle Griffin Game.
Tu nous as parlé en introduction d'un jeu qui s'appelle Mr. President. Et dans l'épisode numéro 3, tu nous as parlé également d'un autre jeu dans ce style-là. C'est Unforgiven.
Oui,
Et
et Colin, je
ça
l'ai
fait
encore,
longtemps, hein, de
Martin.
Lincoln, l'assassinat de Lincoln.
J'ai élagué 9, 10 jeux dernièrement. Il faut que je recommence mon backstory, Martin, pour redonner des pieds dans l'autre côté du plateau.
Hey, je t'avais demandé de m'envoyer des photos parce que tant qu'à t'en débarrasser, il faudrait au moins jouer une fois des jeux avant de
Ben,
partir.
là, je te montrerai celle que j'ai commencée. Puis je l'ai justement vu, Unforgiven, puis. Non, je le garde. C'est un bon jeu de dés, c'était le fun. Puis c'est un jeu qui ressemblait à un autre que je ne me souviens plus, Martin.
C'est
Mais
un deux joueurs, là.
oui, ben oui. Puis j'avais joué une fois avec Hélène. C'est The Lincoln Assassination Trial. Puis c'est une enquête. Puis le but, c'était justement d'amener les jurys de ton bord. Puis c'est un jeu de cartes avec un. Ah oui, c'est ça, c'est Seven Wonders Duel. Ça ressemblait à Seven Wonders Duel parce qu'on mettait des cartes une par-dessus l'autre. Puis on fait juste prendre des cartes qui sont dévoilés dans une forme de pyramide. Non, celui-là, il reste dans ma bibliothèque, Martin. C'est un bon jeu.
Prochain qu'on avait présenté, que j'ai gardé parce que j'aime bien l'auteur. J'y ai pas rejoué depuis, mais je l'avais gardé pour me rire. Il jouait avec Stéphane, et je pense pas que tu y as joué. En tout cas, tu m'en as jamais parlé. C'est Bloodborne de chez Siemens, le jeu de Eric Lang, qui est un jeu intéressant par sa manipulation de cartes. Est-ce que tu as joué à Bloodborne?
Bloodborne. Ah
Bloodborne, The Board Game.
oui, je l'ai, oui, j'ai joué. J'ai même une vidéo sur ma chaîne
OK, bon,
de
on
ce
n'avait jamais
jeu-là.
parlé ensemble.
Non, on n'en a jamais parlé, puis je pense que je l'ai eu moi, après, bien plus tard que ce que tu en as parlé là. Puis ça se peut que je me suis peut-être procuré à cause que tu m'en as parlé là. C'était très bon, Bloodborne. C'était cool, c'était très, très style jeu vidéo, là. C'est une imitation de jeu vidéo.
Oui, c'est ça. Puis il y avait quand même quelques nouveautés dans les mécaniques de jeu que j'aimais bien, l'histoire des. Et ça fait longtemps que je n'ai pas joué, là, par exemple, il y avait des cartes, puis on. Donc, comme deux utilisations là, puis ça, je trouvais ça intéressant. Du coup, j'ai gardé ma copie, mais je n'y ai pas joué depuis. Je me suis au moins promis de le réessayer avec Stéphane. Stéphane, si t'es à l'écoute, là, Bloodborne, The Board Game, ça serait à tester ensemble, voir si c'est de quoi qu'on garde ou pas. Mais on a tellement de jeux à jouer. Ça n'a plus de bon sens.
On a hégémonie, on est supposé de jouer ensemble.
On a hégémonie, puis
Hein?
tu sais, c'est drôle parce que suite à. Ça fait une couple de fois là, que j'en parle sur le podcast, sur ma chaîne et tout. Puis j'ai commencé à avoir du monde qui m'écrivent si tu as une table de disponible au Delirium, je veux jouer avec toi. Fait que j'ai commencé à avoir des réservations là, pour des parties.
Bon, vois-tu,
J'ai
tu
juste
vois
pas le
le.
jeu, par contre,
Ouais, c'est ça. Je te passerai ma copie, Martin, si tu en as besoin.
là. Oh, tu viendras. L'autre, j'ai acheté le jeu suite après ta présentation. Tu m'en avais parlé, c'était intriguant pour moi. J'ai acheté par contre la version française, je pense qu'il est suivi par après. C'est des initiatives.
Oui, le projet en français.
Le projet, exactement.
Oui.
Ce qui est un jeu assez novateur par sa façon de présenter ce genre de jeu d'intrigue. Mais c'était un des premiers jeux de la nouvelle compagnie de Corey Kinesia. Unexpected Games, qui fait toutes des choses un peu particulières. Et lui, c'est ça, c'est un jeu dans un jeu dans un jeu. Là. Il est méta sur trois niveaux. Puis même à la fin, tu débloques le jeu vers un autre niveau. Je ne me suis pas rendu loin. J'ai ma copie. Je l'avais emmené à un moment donné en vacances en disant je vais le passer à travers durant les vacances. Puis bah, on a fait d'autres choses.
Ouais, c'est notre vie, ça. Moi, je l'ai donné l'initiative pour me le reprendre en français.
Mm-hmm.
Donc, j'ai le projet parce que je me promets d'y jouer avec Hélène parce que je sais qu'elle va aimer ça. J'avais trouvé le jeu redondant, mais le concept de déchiffrer des codes, vraiment le fun. Et il y a le méta-méta qui est aussi à l'intérieur du jeu qui était cool. Ben, j'avais réussi à déchiffrer quand même des affaires. C'est juste que le jeu en tant que tel, il n'est pas super le fun.
Ouais, c'est ça, parce que c'est des jeunes qui jouent à un jeu, puis c'est un jeu dans un jeu, mais le jeu de base est assez quelconque, il est intéressant, ouais. Mais c'est parce que tu refais tout le temps la même chose.
Exact.
Mais c'est dans le fond, c'est un peu l'enquête, puis tout ce que tu vas trouver après ça qui est intéressant. Un peu à la... Là, je tire un peu la sauce, là, mais à la Box One, où est-ce qu'on va trouver des choses dans des choses.
Oui, je comprends. Oui, ça a de l'allure.
Non, moi, je l'ai gardé en me promettant de le faire au complet à un moment donné. Mais ce moment-là, je ne sais pas quand est-ce que c'est ce moment-là.
C'est cet été, Martin.
Ah oui, OK.
Cet été, tu finis, je le finis, puis on en reparle cet automne.
OK, bon, ben c'est un projet.
Voilà, c'est un projet. On va accomplir.
Prochain, qui est un classique pour moi de jeu de cartes de combat, j'ai beaucoup aimé mes parties en compagnie de Stéphane, c'est Inflexible Normandie.
Oui.
Et là, moi, je passe un message à JP parce que JP, je cherche l'extension Reinforcement pour le jouer en solo et il est toujours BO. Fait que si tu peux avoir une copie, mets-moi-en une de côté, j'aimerais ça le tester celui-là.
Moi, c'est déjà fait, Martin, tu sais.
Je le sais, je le sais.
Puis j'ai même le nouveau qui est Undaunted Battle for Britain,
oui.
Les avions. J'ai hâte de l'essayer. Beaucoup, beaucoup. Que ce soit n'importe quel des trois Undaunted officiellement, tu as Normandie, North Africa, Stalingrad, en fait, il y en a quatre maintenant. Stalingrad puis Battle for Britain, c'est des excellents jeux à deux joueurs.
Ensuite, ben, on a parlé de Hoplomachus. À chaque épisode, ça nous prend un jeu de Shiptery Game.
Je l'avais pas reçu, je pense, encore.
Non, mais on l'avait parlé parce que je pense que tu l'as ressorti parce qu'à l'époque, Victorum était sur Kickstarter.
OK, c'est ça. Oui, j'avais probablement sorti ma vieille copie.
C'est ça. J'ai toujours pas joué à Hoplomachus Victorum.
Pourtant, tu l'as.
Je l'ai.
En fait, toutes les Shiptery Games, tu les as toutes. Mais tu joues pas.
Ben, j'ai joué avec vous autres.
À Too Many Bones.
Oui.
Oui, une chance qu'on était là pour toi. Ça,
ben, merci.
Tu as sorti ta copie francophone, d'ailleurs, que j'ai adoré jouer en français.
Oui, ben, c'est peut-être pour ça que j'ai le goût d'y retourner, d'ailleurs.
Fait que, oui.
D'accord. Donc, on change d'épisode. On s'en va vers l'épisode numéro 5.
L'épisode 4. Martin.
Non, ouais, je sais. L'épisode, ben, on peut arrêter avant, là. Peu importe.
Okay.
L'épisode 4, on faisait référence au prix des jeux de société. Donc, déjà, à l'époque, on parlait d'inflation et je pense que ça a continué à augmenter pas mal depuis.
Oui, c'est de plus en plus cher, effectivement. On avait des beaux sujets.
Oui, je pense que c'était intéressant. Alors, l'autre épisode, tu nous as arrivé avec un projet que j'ai parlé récemment parce qu'on a parlé des jeux en solo de Benjamin Thompson. Et c'est un de ses premiers qui nous a parlé, c'est Castle Heater.
Oui.
Est-ce que tu as gardé ce jeu-là?
J'ai tout gardé, la gamme de Castle Heater, de Postman in Soldier Uniform, puis j'ai le dernier qui est L'Azeroth Bridge.
Je me trompe pas. Il n'y avait pas l'autre, Pavel, quelque chose?
Pavel House. Fait que j'ai toute la gamme au complet. J'ai pas encore joué, par contre, à L'Azeroth Bridge, qui est le dernier que moi j'ai reçu. Mais c'est des très bons petits jeux.
Ça, Martin, dans nos prochaines rencontres, là, puis pour faire de la place dans ta ludothèque, tu me passeras ça à un moment donné.
Ça va me faire plaisir, Martin.
Ensuite, ben, un jeu qu'on a parlé tantôt, que j'ai reçu en avant-première, c'est Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Pour moi, c'est une campagne que j'ai encore en cours, c'est rare ça. En compagnie de Stéphane et Ludovic, qui une fois par deux semaines environ, on se rencontre et je suis rendu, ben, quand ça donne, bien sûr, je suis rendu, je pense, à la 23e partie. Fait qu'on quand s'était même dit qu'on passait à travers et ça va bien. 23 parties, c'est quand même du costaud dans mon cas.
C'est très bien.
Et après ça, tu nous as parlé de Agricola Famille. Là, tu m'avais surpris quand tu étais avec ça.
J'avais joué avec ma fille puis mon fils Rebecca puis Justin. Je n'ai malheureusement plus jamais ressorti ce jeu-là. C'est dommage. C'est un petit peu ça, ma vie de famille, malheureusement. Mes enfants trippent sur un jeu, puis après ça, ça leur tente plus de jouer aux jeux de société. Mais à l'époque, là, aujourd'hui, c'est encore difficile. Mais c'était un très bon jeu d'initiation au jeu style Agricola. Puis, si vous avez de jeunes enfants, là, c'est je sais que là, il y en a plein d'autres qui sont sortis par la suite, des jeux de ce type-là. Mais c'est une bonne porte d'entrée pour jouer à un jeu qui est aussi le fun pour les enfants que pour les parents.
C'est ça le défi, hein, parce que des jeux pour enfants, il y en a beaucoup, mais des jeux pour enfants qui sont aussi intéressants pour les adultes, il n'y en a pas des tonnes.
Exact.
Ouais. Bah, j'ai plus d'enfants, donc je n'ai pas essayé Agricola Famille, mais Agricola, quand même, un classique que j'ai gardé dans ma ludothèque.
Là, ce que Martin voulait dire, c'est qu'il n'y a plus de jeunes enfants, parce qu'il y a encore ses deux filles.
Oui, mais
Faut pas
pour moi, c'est
oublier
rendu
ça.
Des femmes, là, parce qu'ils sont rendus dans la vingtaine et ils vivent leur vie. Je t'ai parlé d'un petit jeu de cartes que j'ai pas gardé dans ma ludothèque, c'est Gutenberg. Je trouvais intéressant parce que c'est un jeu, un Scrabble game de cartes, mais c'est pas le genre de jeu que j'ai réussi à sortir souvent. Il y avait même une version solo, je m'étais amusé de temps en temps pour le faire. C'est intéressant par sa nouvelle approche du genre, mais c'est pas un jeu que j'ai sorti, donc c'est de côté pour moi. Tu te l'étais-tu procuré, toi?
Non, j'ai passé proche à plusieurs reprises, mais je me suis gardé de me le procurer, mais je sais que t'en avais parlé en bien.
Oui, non, c'est intéressant, effectivement. Mais c'est pas un jeu, c'est un passé un petit peu sous le radar de chez Nuts Publishing. L'autre, c'est ton coup de cœur, je pense, de l'épisode. Puis tu nous en parles tout le temps depuis ce temps-là. C'est un jeu de nos amis de Lucky Duck Games, Destinies.
OK. C'est sûrement toi qui en avais parlé, là, parce que.
Non, je pense que c'était toi, parce qu'on fait la séquence. Normalement, c'est toi qui
Ah,
en
c'est
as
à
parlé.
moi, ben écoute, je pense. Non, c'est.
Pas pour toi.
Je n'aime pas ce jeu-là.
Oh,
Puis,
ça, c'est le droit. T'as le droit.
c'est ça, voilà. Puis je sais qu'il y a des extensions qui sont sorties. Je ne comprends pas encore pourquoi ils n'ont pas fait ce jeu-là coopératif. Ce
Ben,
jeu-là.
il vient de sortir coopératif, c'est Godgrave, qui est sorti sur
OK.
Kickstarter, qui est la version, si on veut, coopératif de Destinies dans un monde fantasy.
Bon, ben,
Qui
je vais peut-être.
est plus intéressant parce que c'est un jeu de gestion de dés avec une gestion de risque, avec une seule ressource qui sert à tout dans le jeu. Ce que j'aime, c'est que la gestion de ton pool de ce que tu vas avoir au début est dictée par une carte. On a comme des cartes qui vont te dire quelle attitude tu vas avoir vis-à-vis une situation. Puis quand tu prends cette carte-là, ça te dit, ben là, tu as le droit à telle ressource, dans telle quantité. Puis après
OK.
ça, tu fais ton tour selon ça. Mais quand tu as joué ta carte, elle revient pas. Fait que faut que tu joues les bonnes cartes au bon moment pour décider de quelle façon tu vas interagir. Je suis quand même bien. Donc, Destiny's Co-op.
Ouais, j'ai hâte de voir ça parce que pour l'instant, Destiny's, malheureusement, n'aura plus jamais. Il aura plus la chance d'être sur ma table.
Et le dernier, ben c'est drôle parce que je n'ai pas lu récemment parce que j'ai racheté l'extension, c'est After the Virus. Donc, déjà à l'époque, on était en pleine pandémie et j'avais sorti le jeu en me disant, il me semble que c'est très thématique.
Mais
Voilà.
tu sais que tu en as parlé, je pense que l'extension qui est sortie, on en a
Oui,
parlé tellement
The Long
longtemps.
Cold, oui.
Et là, on en fait vendre, en tout cas, je dirais tu en as fait vendre beaucoup. Il y a beaucoup de monde qui le cherche, dont moi, là, puis il est disponible. Oui,
Ben, il était
After the
disponible chez À la
Virus.
Pioche, mais quand on en a parlé, je pense qu'il a tout vendu ses copies dans le temps de le dire.
Ben, c'est ça. Fait que oui, des fois, on influence certaines choses.
Voilà. Ben, je te passerai ma copie si tu ne réussis pas à t'en trouver une, mais si tu réussis. Écoute, c'est un jeu probablement aussi laid que Dungeon Degeneration.
Non.
Non, OK.
Non,
Non,
je sais que
c'est
t'aimes
vrai que
pas
c'est
l'aspect.
dur.
J'aime pas l'aspect artistique. Moi, je le trouve pas si pire, mais Dungeon Degenerate, c'est d'une laideur. C'est ça. Mais bon, c'est un choix artistique.
Joueur artistique. On passe au prochain épisode numéro 7 en date de juin 2025. 25 juin. Ça fait presque 2 ans, jour pour jour.
Oui.
Alors, on a parlé de Keys, ça, c'est le jeu de chez Abba, petit jeu d'enquête avec des loupes qu'on pioche des cartes. C'est de l'auteur de Mind, je pense. Donc, j'étais curieux d'aller tester ça. Ça n'a pas fait grand bruit comme jeu, mais je trouvais ça intéressant comme nouvelle approche de jeu d'enquête en temps réel, tout le monde en même temps. Puis c'est le nombre de cartes que tu prenais qui faisait en sorte qu'il fallait que tu aies les bons indices.
OK.
Fait que ça, tu l'avais essayé, hein, je pense.
Oui, je l'avais essayé, puis c'était intéressant quand même, c'était bien. Mais c'est ça, je pense que ça n'a pas été plus loin que ça.
Non, c'est ça. Ils ont sorti, je pense, 3 ou 4 boîtes. C'est ça, toutes ces gestes. À un moment donné, on essaie des choses. Ça peut pogner comme ça peut pas pogner. Celui-là, il y a eu suffisamment d'intérêt pour qu'on l'essaye, mais ça n'a pas été plus loin.
Oui, c'est exactement.
Tu nous as parlé après ça de Adventure Games, le donjon. Un jeu livre, ça, j'imagine. Ça te dit-tu de quoi ou pas du tout?
Adventure Game.
Le donjon.
Game, le donjon.
Ouais.
Le prochain, pourtant?
OK. Le prochain, c'est Demeter, qui est un roll and write. Déjà à l'époque, je commençais ma folie des roll and write. Qui est un jeu. Après ça, il y a eu Varuna qui est sorti. C'est de la même compagnie. Je cherche le nom. Sorry, We Are French qui a fait ça. C'était pas arrivé ici au Québec. Je ne sais même pas si ça a été distribué au Québec. Mais c'est un beau jeu à combo dans lequel on est sur une exploration d'une planète lointaine, puis on va. Je pense qu'il y en a une qui se passe dans l'océan, puis l'autre c'est avec des dinosaures. Là. Bon, c'est un peu comme Persévérance, le Roll and Write.
OK, ben c'est sûr que je vois, il y a beaucoup, beaucoup de... Ben, il est sorti ici? C'est ça que tu dis, tu ne sais pas, hein?
Ben, j'avais fait venir des copies, moi, directement en distribution par la compagnie, mais il me semble que j'ai juste fait venir une centaine de copies pour ceux qui voulaient en avoir,
okay,
mais on ne l'a pas distribué. Fait que je ne sais pas si quelqu'un l'a pris. Je ne suis pas certain qu'il a été disponible sur le marché traditionnel.
Il va être où dans ton top des meilleurs roll and write, Martin?
Ben là, tu m'as lancé le défi, puis tu vois, durant mes vacances, là, je vais faire ça. Je vais faire ça de façon assidue, puis je vous reviens avec un top. Tu m'as dit top 50, on verra combien ça sera, là, mais un top.
Je vais parler du top 50, c'est vrai. C'est quelqu'un d'autre qui avait dit top 25 pendant le live.
Ouais.
Top 50, je pense que ça serait un beau défi, ça.
C'est bon. L'autre, c'est un de tes coups de cœur quand c'est sorti. Je ne sais pas si c'est resté. Tu m'avais parlé en bien de Mandala Stone.
Oui, Martin. Oui, c'était vraiment cool, ce jeu-là, Mandala Stone, que je n'ai plus dans ma ludothèque aujourd'hui parce que c'est moins mon style de jeu, mais je me souviens d'avoir joué avec mon ami Patrick Roson et on avait eu bien du fun. Puis je me souviens encore quand j'avais sorti ce jeu-là, qui est un jeu où on plaçait des pierres dans un genre de spirale. Puis je me souviens pas de tout exactement des règles.
Ouais, c'était des espèces de tuiles avec des couleurs et des formes. Ça représentait des artistes, mais ça, c'était très, très abstrait. Mais c'est une question de déplacer, de récolter dans le bon moment, dans le bon nombre, pour être capable de faire notre mandala. Système de pointage assez original. J'avais fait une ou deux parties du jeu. Je le trouvais effectivement dans la trame d'un Azul, là, mais...
Oui, je me souviens que c'était très, très, très abstrait parce qu'on on déplaçait des artistes. Puis les artistes étaient représentés par des bouts de bois, des longs bouts de bois. Puis là, je me souviens, j'avais sorti ça avec mon ami Patrick. Puis là, ses yeux, quand j'ai présenté le jeu, tu sais, ça me dit qu'est-ce que c'est?
De quoi tu me parles?
Tu sais, tu vas me faire jouer à quoi? Puis qu'à la fin, tu sais, le genre de jeu qu'à la fin, il a fait comme ah, c'est bon ce jeu-là, finalement. Je ne suis pas sûr si ça ne l'est pas procuré après, justement, Mandala Stone. Fait que c'est un beau jeu obscur que je regrette, je pense, de mettre des parties.
OK, bon.
Ouais. Moi,
donc, tu ne dirais pas non si quelqu'un t'inviterait à jouer une partie.
Ah non, je jouerais tout de suite. J'avais bien, bien du fun à ce jeu-là. C'est un jeu abstrait, mais c'est un jeu abstrait avec
l'intelligence.
Ouais. Oui, exactement.
L'autre, c'est un jeu que moi, je t'ai parlé, mais pour m'apercevoir après ça que ton nom était marqué en arrière de la boîte, c'est Under Falling Skies.
Pour la version française, oui.
Oui, c'est ça. Ça se trouve être le jeu de l'année en solo, donc il est en nomination au Board Game Geek Award et c'est lui qui avait gagné le jeu de l'année. Totalement mérité. D'ailleurs, que j'ai donné en référence dans mon article au Soleil parce qu'il me demandait des références de jeu. C'est un très beau design de la trame de c'est une campagne vraiment solo. Puis là, une campagne en solo, on vient d'en faire une d'ailleurs. J'ai complété ma campagne en date d'à peu près une semaine. Legacy of You, c'est fini.
T'as gagné?
Oui,
Erreur de règle.
je vais t'en revenir sur la problématique du jeu parce qu'il y a quand même une problématique. Mais ça va être dans le prochain épisode. Vous devez attendre la semaine prochaine pour
OK.
en avoir un peu plus.
Oh, tu m'intrigues, là.
Fait que non, j'ai passé à travers et franchement, belle réussite. Mais, il y a un mais. Je te reviens.
OK. Bon, mon Dieu, c'est quasiment plate, là.
Mais
C'est à cause de ça, je jouerai pas au jeu.
non, au contraire, tu vas vouloir savoir c'est quoi le mais.
Ah, OK. Mais en deux, Sky, c'est super bon. Ben, j'ai mon nom en arrière, fait, je vais arrêter de parler. Les gens vont dire que
Non, mais
je
tu n'as pas
suis
été payé pour.
pas tout.
Fait que tu as le droit. Tu as le droit, Martin.
Oui, moi, mon nom est en arrière de la boîte. C'est une de mes fiertés de ma vie. Et oui, c'est un excellent jeu solo qui me représente super bien. Ça fait que ça va toujours être ma plus grande fierté d'avoir mon nom en arrière d'un jeu de société comme celui-là, qui je pense qu'est un des meilleurs jeux, ben, un des très, très bons jeux solo qui est sorti avec du beau matériel à bas prix quand même.
C'est vrai qu'il n'était pas cher pour la quantité de matériel qu'il y a à l'intérieur, là. C'était impressionnant.
Les dés en bois, par contre. Oh!
J'aime ça, moi, des dés en
Ah,
bois.
moi, j'aime pas ça. Je trouve que tu lances ça fait blah, c'est comme si c'était des nuages que tu lançais.
Que j'aime pas, moi, c'est les dés totalement carrés. Ce que j'aime des dés en bois, c'est que les côtés sont arrondis, fait qu'ils tournent, ils roulent bien. Et des dés carrés, là, tu le lances, puis il fait toc, puis il tombe à plat, puis il n'y a rien qui se passe, là. Ça, j'aime ça.
Ouais, sauf quand tu utilises une tour à dés.
Ah non, ça, c'est blasphème.
Non,
C'est un
mais ça, c'est.
blasphème, ça.
Tu lances puis tu les entends là, tout bouger bien comme il faut, là.
On ne reviendra pas là-dessus. Les accessoires essentiels pour un gamer, c'est de la gommette.
Oui, ça oui, ça t'as
OK.
raison. On devrait d'ailleurs partir de notre entreprise de gommettes de jeux de société. On pourrait les faire brander, c'est genre gommettes Terraforming Mars, la gommette noire. C'est pour aller avec l'espace.
De l'autre côté du plateau, on pourrait aussi en avoir une à notre nom.
Hey, Martin, ça pourrait être notre première merch, acheter
Ah,
la
quoi?
gommette de l'autre côté du
Là, il y
plateau.
en a peut-être qui ne savent pas du tout de ce qu'on parle, là, parce que ça remonte quand même à longtemps. C'était des idées cadeaux pour des gamers et des accessoires de jeu. On a fait une liste et Martin est arrivé avec des gommettes.
C'était une bonne idée parce qu'il y a des gens qui le font.
Je disais, oui, j'en avais même acheté quand on a fait notre premier meet-up pour
Oui.
en donner.
Mais je dois dire que l'idée venait de notre ami Rado et non de moi. Là. Tu sais,
Voilà, c'est correct.
j'avais pas eu cette idée-là.
Et ensuite, Martin, tu nous as parlé d'un jeu. Que j'avais reçu moi pour présenter lors de la campagne Kickstarter et je l'ai volontairement pas fait. Un, je n'étais pas payé pour le faire. Et deux, je n'avais pas accroché sur le jeu parce que je trouvais que le plateau était tellement chargé et moi qui ai un petit problème de daltonisme, j'y voyais absolument rien. J'aurais fait une vidéo là-dessus puis je me serais planté de A à Z. C'est Daimyo, donc le jeu de la
Ouais.
boîte de jeu que tu avais
Oui.
quand même aimé.
J'ai adoré Daimyo. C'est drôle parce qu'il vient tout juste de partir dans les derniers Meeple Olympiades. C'était un de mes élagages les plus difficiles que j'ai fait parce que j'avais bien aimé ça. J'avais joué avec Stéphane. Mais tu as raison, c'est un jeu qui était très chargé. Mais c'est un bon jeu. La thématique est un peu bizarre. Ça se passe dans le futur, au Japon, si ma mémoire est bonne.
Ah oui, puis
Des...
on récoltait des vestiges du passé pour en faire
Ouais.
des trésors du futur. Bon, c'est ça.
C'est ça, c'était bien. C'était un bon jeu. C'était un bon jeu. Mais bon, il était overproduced pour ce que
Mais hein,
j'ai
moi, j'ai
joué
eu la
là.
version KS avec la boîte de figurines à part, là.
Ouais, c'est ça, exactement. Puis je me souviens parce que quand David est venu chercher mes jeux, j'ai fait comme ah! T'sais, ce genre de jeu qui
Et
fait
ouais,
comme
à dernière minute, t'as
ah,
dit, je suis pas sûr.
non. Puis finalement, il est parti avec.
Alors, on félicite l'heureux gagnant
Ben oui.
de Demio. Et l'autre, c'est un jeu que je t'avais présenté, je pense qu'il t'a suscité suffisamment d'intérêt pour que tu me demandes de te passer la copie. Je pense que tu as apprécié. C'est Solomon Kane.
Ah ben
On a attendu
oui.
quand même assez longtemps ce jeu-là. Mais assez belle implantation d'un jeu narratif avec une gestion de dés, mais le narratif est bien fait parce qu'il y a une incidence sur la façon qu'on joue, puis même les personnages, selon où on se trouve sur le plateau, il se passe des choses différentes. J'ai bien aimé, j'ai fait deux. Ben, c'est des mini-campagnes, puis j'ai fait quand même deux ou trois épisodes complets, là, donc quelques chapitres là, pour passer à travers. Donc, voilà pour notre épisode de 7.
Et il était avec Solomon Kane, qui est fait par quelle compagnie déjà?
Mais tu sais.
Oh!
Oh, 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 oh.
Attends, attends, attends. Non, j'ai pas reçu
Ouais, mais à l'époque, ils ne nous chargeaient pas de surprise.
Ouais, mais là, ils
J'ai pas.
vont. Ouais. Ouais.
OK.
Alors, passons parce que, tu sais, hein, on ne veut pas s'acharner.
Épisode 8, Martin, ça a été un spécial Too Many Bones, parce qu'il est arrivé en français. Que dire de plus?
Que dire de plus? Toujours aussi bon. J'ai joué cette semaine avec Stéphane. On s'est rendu au boss final. On jouait comme Blobulus. Blobulus, c'était ridicule. Ridicule.
Ridicule. Attends,
Ça a
j'en ai un.
duré 5 minutes. On était mort. Fait qu'on a joué 3 heures et demie de temps pour se faire un boss
Ramasser.
final en 10 minutes. Puis on était dans la dernière journée. Fait que c'était terminé. Mais
Ça passait ou ça cassait?
encore une fois, le chemin pour se rendre là, ça a été tellement plaisant. On a eu bien du fun. Puis encore des lancers de dés là, où Stéphane y a lancé. Puis pouf, il a réussi la mission sur le dernier lancer de dés. Ça a créé encore beaucoup de fun. C'était Tantrum, puis moi j'avais Riffle. Et Riffle qui est un excellent personnage. Et j'attends mon Unbreakable.
Fait que tu le joues en anglais ou en français?
En
Ah, ben
anglais.
avec ta copie, oui.
En anglais. Martin, j'ai pas de copie française, mais j'avais des traductions françaises faites par les fans avant même que Lucky Duck Games fasse sa traduction. Fait que moi, j'ai tout ça pour
Donc, tu avais la
Unbreakable.
copie qui n'avait pas de faute, c'est ça?
J'avais pas mal, mais on en a trouvé quelques.
Ah,
Ben,
OK.
en tout cas, je veux pas. Non, ça cherche. On s'acharne pas, Martin.
Non,
Arrête.
non, 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 non.
On a vu qu'il y avait des erreurs en anglais aussi la semaine passée.
Exactement.
Oui,
Exactement.
effectivement.
Les guess view, j'ai une erreur dedans. OK. Donc, on passe. Je pense que Martin, on ne se rendra pas à 25. On va se limiter peut-être
Hey,
à une.
continue, Martin,
OK,
continue.
c'est
On
bon.
verra, on verra. Moi, j'ai encore du fun.
Parfait. Donc, épisode 9, on est arrivé avec une série de jeux qui, moi, bon, m'ont marqué pour certains. Ta première suggestion m'a fait acheter le jeu et j'y ai joué de nombreuses copies. Donc, j'avais amené deux. Quand je t'ai dit que je n'ai pas joué au projet durant mes vacances l'année passée, c'est parce que j'avais amené ce jeu-là et c'est ce jeu-là que j'ai joué à répétition. C'est Imperium Classic et Imperium Legend.
Ouais.
Fait que, je
C'est tout ce
m'étais.
que j'ai à dire.
J'y ai joué, j'avais joué quand j'ai reçu mes boîtes, j'avais vraiment apprécié, mais j'ai dit pour apprécier ça, il faut que j'aie joué à peu près toutes les factions avec tous les embranchements possibles, ce qui est pratiquement infaisable. Mais je me suis. J'ai pas fait la Legion. Legion, j'ai fait une partie, mais j'ai passé à travers la boîte de classique en essayant tous les peuples. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à ce deck building-là, vraiment intelligent. J'ai joué uniquement solo. Je sais que toi, tu y as joué à deux joueurs, entre autres, à quelques reprises.
Oui, j'ai joué avec Hélène à plusieurs reprises, puis c'est extraordinaire, mais je ne jouerai pas à ce jeu-là à plus que deux, parce que c'est un jeu qui joue jusqu'à 4 joueurs. Je pense que c'est un jeu qui joue très bien en solo grâce à David Turzi. Puis 2 joueurs, c'est extraordinaire. Et je vous rappelle qu'en 2024, ils ont annoncé Imperium Horizons.
C'est vrai qu'il y a une extension. C'est pas une extension, c'est des standalone, dans le fond.
Oui, c'est ça. Ça va être un stand-alone dans lequel il va y avoir 14 nouvelles civilisation, Martin, 14.
14.
Et encore avec ils vont tous être compatibles en solo, encore une fois. Fait que ça va être. Puis on dit aussi qu'il va y avoir 45 cartes reprint de Classic et Legend avec des changements de
Ah oui.
balancer et pour améliorer certaines. Donc, quand même 45 cartes avec des reprints pour.
Es-tu en train de dire qu'il y a des erreurs là-dedans aussi?
Ben, j'imagine qu'ils veulent améliorer certaines petites choses,
C'est correct.
mais quel jeu ce jeu-là? C'est un beau chef-d'œuvre.
Tu as regardé tes copies?
Tout à fait.
Moi aussi, moi aussi. Par contre, moi, j'économise la place. Hein. Je combine. Fait, j'ai gardé, je garde tout le temps une boîte, j'enlève les inserts, puis je remplis ma boîte de jeu. Il faut que
Moi,
je me trouve la place.
je les ai gardés les deux, moi, je pense. En tout cas, bref, passons.
Autre jeu, ben, je pense que ça fait partie des classiques. J'ai la Big Box que tu t'es procuré aussi avec les figurines, les extensions, tout le patatlan, un jeu de l'année. Dune Imperium. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler de ce jeu-là. Ça fait pas des années quand même. Hein? On parle de juillet 2021.
Que dire de plus de ce jeu-là qui est toujours le fun? Et ce qui est cool, c'est que toutes les extensions, je sais que tu n'es pas un gars d'extensions, mais toutes les extensions ont amélioré le jeu,
Je
selon
les ai dans ce cas-là en plus.
moi. Ah,
Parce
ben
que oui, je
vois-tu?
fais partie de l'exception. Ce jeu-là, pour moi, fait partie de l'exception. Et j'ai bien aimé ah mon Dieu, comment est-ce qu'il s'appelle? Son nom m'échappe. Le nouveau collaborateur de David qui a travaillé avec moi, il va m'en vouloir, qui parlait de Dune Imperium, puis il a fait son top 10 ou son top 50 de jeux, et il l'avait classé numéro 1, et il disait que pour lui, c'était comme une bataille de couteaux dans une cabine téléphonique. Dans le sens que...
OK, ouais.
Parce que c'est très tight comme jeu, puis les combats sont là à toutes les rondes, puis t'as pas le choix d'être là, puis tu peux pas fuir dans le jeu-là. Il faut que tu sois dans l'action. Si t'es pas dans l'action, tu gagneras pas.
Mais tu peux réfléchir parce que quand tu joues à plusieurs, mettons, comme la dernière fois que j'ai joué, c'était avec ton ami Stéphane, quand il était venu chez moi, qu'on avait fait une journée de jeu, là. Puis des fois, tu peux décider de laisser les deux autres se battre.
Ah oui, volontairement, tu les laisses se maganer.
Parce que les autres, ils ont pu, après ça, il faut qu'ils enlèvent leur soldat. Puis toi, tu vas prendre la prochaine bataille dans laquelle il va peut-être avoir un point. Fait qu'il y a, alors, il y a beaucoup de stratégies, sans oublier ce deck building qui est vraiment serré, là. Tu sais, c'est pas, tu peux pas aller à droite et à gauche. Il faut vraiment, tu dois réfléchir aux cartes que tu vas aller chercher. Toujours aussi le fun encore après tous ces ans.
C'est un des rares deck building que c'est pas une bonne idée d'acheter la plus chère des cartes.
Exact.
La plupart des deck building, tu te poses même pas question. T'as 8$, t'achètes quelque chose à 8$, tu sais que ta carte, elle vaut mieux que les autres. Mais dans ce jeu-là, t'es mieux de dire à un moment donné, non, c'est celle-là que j'ai besoin parce que la synergie avec mes autres cartes est là.
Tout à fait.
Donc, voilà. L'autre, je suis pas sûr que tu l'as gardé. C'est un Kickstarter qui m'intéressait. C'est un jeu un peu bizarre avec des lunettes 3D à l'époque, à l'ancienne, c'est le Dead Eye. Oh, il se retourne, Martin, ça veut dire que son jeu est encore quelque part.
Ah, je ne sais pas parce que écoute, je me souviens de la gimmick de ce jeu-là, de jouer en 3D, puis ça marchait quand même. Mais le jeu n'était pas si hot que ça.
Non, c'était vraiment un petit projet Kickstarter, une illustration un petit peu particulière. Mais écoute, moi, j'aurais été curieux de l'essayer. Fait que si tu l'as encore, là, avant de le mettre dans la pile de débarras, tu me le diras, je vais l'essayer. Je ne veux pas le garder dans ma ludothèque, mais je serais le genre à l'essayer. Donc, Dead Eye.
Écoute, Martin, c'est sûr et certain. Je pense à toi si je le trouve.
OK. Prochaine série de jeux, ben, j'avais ressorti à l'époque les Mint pour les essayer. C'est pas de quoi que j'ai gardé dans ma ludothèque, même si ça prend pas énormément de place. Là, j'avais backé la première campagne de Mint. C'était pas Mint Delivery, c'était pas Mint Cooperative, c'était Mint Control non plus. Bref, c'était l'autre.
Il y en a
un paquet.
Ouais.
C'est ça. Je trouvais l'idée intéressante. D'ailleurs, c'est un concours qui a eu ça sur Kickstarter de faire un design de jeu dans une boîte de menthe. C'était ça la thématique. Et il avait sorti donc ce jeu-là pour l'occasion. Et finalement, il y en avait fait plusieurs. Le concept était intéressant, mais c'est vraiment du petit jeu portatif. Il est quand même intéressant à amener ça à la plage, là, mais
ouais.
Voilà.
Bon, moi, j'en ai un, je pense, ou deux, je pense. Puis c'est du bon petit jeu. J'ai ça encore.
Petit jeu. Bon. Ça ne prend pas de place, en tout cas.
Tout à fait.
L'autre, tu nous as parlé d'un jeu que je ne connais pas pantoute. C'est un Martin Wallace, je pense. C'est Wildlands.
C'est dommage, parce que je pense que tu aimerais ça, ce jeu-là, surtout contre Stéphane.
Ouais, tu disais un peu le prédécesseur de Unmatch.
Un petit peu, oui, parce que c'est un jeu de confrontation sur avec des figurines qui sont déjà pré-washées. Puis c'est un jeu avec des beaux plateaux, puis c'est un jeu de cartes. Donc, il faut que tu fasses avancer tes personnages, puis selon les actions, tu vas aller chercher des cristaux, puis c'est les cristaux qui vont te faire gagner. Ils ont sorti une version solo avec une extension avec des squelettes qui te permettent de jouer en solo, mais c'est un jeu que j'ai encore dans ma ludothèque et que je ne me départirai pas, parce que j'aime beaucoup le jeu Wildlands, un genre de petit jeu de confrontation. Un petit peu comme, c'est pas le même type de jeu, mais jeu de confrontation, tu as... Mettons Dice Throne, Unmatched. Tu sais, des petits jeux qui ne sont pas très longs, mais qui sont le fun à jouer.
Ça peut-tu être comparable à Radlin?
Non, parce que Radlin, tu n'as pas de figurine, tu n'as pas de plateau.
OK, c'est pour ça que tu disais Unmatched.
Oui, parce que là, tu as vraiment un beau plateau. Non, mais il faudrait l'essayer. Puis c'est un jeu qui joue de 2 à 4 joueurs, mais avec l'extension, tu peux jouer solo. Fait que plus tu as de joueurs, plus c'est le fun parce que tu as plus d'interactions. Fait que c'est un bon jeu, Wildlands.
Prochain, ben c'est un jeu que moi j'ai joué uniquement solo, je l'avais ressorti. C'est un jeu qui a été réédité. C'est un jeu que toi tu avais acheté, que tu t'étais débarrassé, que tu as racheté. Ben, on a rejoué à peu près en même temps. Puis, je ne sais pas si tu es retourné depuis. Moi j'ai gardé mes copies. C'est Arkham Horror, le card game, donc le jeu de cartes.
Hey, tu te souviens de ça que j'ai acheté?
Ben, je me souviens de tout, moi.
Écoute, oui, puis le pire, c'est que je les ai déplacés de place dernièrement parce qu'il fallait que je fasse de la place dans ma bibliothèque. J'ai encore plein de paquets pas ouverts.
Ah oui?
Mais
Tu
ça, c'est.
continues-tu à les acheter?
Ben non, parce que c'est l'ancienne édition. Je sais qu'ils ont sorti une nouvelle édition, je pense. Ils ont
Oui.
sorti ça, là?
Oh
Ça,
oui, ils ont sorti
sorti.
une. Ben, c'est une ré... Je pense qu'ils ont combiné des extensions puis ils ont mis des cartes dans la nouvelle version de base. C'est un peu l'ancienne version avec quelques extensions mélangées, là.
Puis j'accroche pas. En fait, je trouve le
C'est un
design.
jeu qu'on veut aimer.
Ouais, c'est ça. Je trouve cool comme design. Puis quand je joue, je trouve ça trop compliqué pour ce que c'est.
Et je suis un peu sur le même avis que toi. À chaque fois que j'y joue, je dis hey, j'ai hâte.
Ouais.
Mais là, tu ressors le jeu, tu ouvres le livre des règles. Et un peu fiddly, un
Oui.
peu beaucoup de règles, un peu. Puis là, tu joues, puis je pense que c'est un genre de jeu qu'il faut que tu joues à répétition pour que tu ailles ça sur le bout des doigts, puis que là, après ça, ça roule rondement. Quand tu y joues de temps en temps, c'est saccadé comme partie parce que tu passes ton temps à dire, ah, je suis pas certain de la règle de ça.
Ouais,
Fait que...
c'est un jeu que souvent tu oublies. Tu fais ah non, j'ai oublié de me faire ça. Là, il faut que tu reviennes en arrière. En tout cas, mais je l'ai encore parce qu'il y a de la qualité là-dedans.
Après ça, ben, on est arrivé avec un épisode sur quel est votre type de joueur. Ça, c'est intéressant. On avait
Oui.
parlé quel type de joueur on est. Donc, épisode 10, si vous ne l'avez pas écouté, allez écouter ça. C'est intéressant de découvrir quel type de joueur que vous avez autour de vous, puis quel type de joueur vous êtes aussi également. Ça peut évoluer avec le temps. Ça serait intéressant à Martin de refaire l'exercice.
Là, tu dis-tu
Voir si on est.
qu'on est rendu juste à l'épisode 10, là?
On est rendu à l'épisode 10. Fait
Je
que...
pense qu'on va en faire 15, Martin. Puis,
Vers 15,
parce
c'est.
que, écoute, on va faire un épisode de 3 heures, sinon.
Non, mais le but, c'est de revenir de temps en temps comme ça. Puis, regarde, si on en fait 10 là, dans 10 épisodes, on fera les 10 prochains, c'est pas grave.
Oui, je suis bien d'accord.
Il n'y a pas de trouble. OK, donc, épisode 11, on était avec un jeu d'un auteur que j'aime beaucoup. Moi, j'ai joué au prédécesseur de ce jeu-là, qui est Dwelling of Elderveil, qu'on a joué ensemble.
Oui.
Et l'auteur est arrivé après ça avec Cryo, que je n'ai pas essayé, mais que tu m'avais dit qu'il y avait beaucoup de similitudes.
Oui, c'est un jeu qui n'est pas identique, mais il y a le même concept de placer un ouvrier, puis quand tu l'enlèves, tu fais aussi l'action. Moi, je continue de dire que Cryo est un très, très bon jeu, mais là j'ai Dwelling of Elderveil, fait, je ne pouvais pas garder les deux, fait, j'ai gardé Dwelling. Mais Cryo, c'était un très bon jeu, très pastel, là, ce que je me souviens,
Oui,
du
avec des
plateau.
drones et tout ça. Mais on peut-tu dire que c'est un genre de jeu qui est passé sous le radar?
C'est un jeu qui est totalement passé sous le radar, mais c'est
Le
un jeu de
trou.
qualité. Moi, j'ai
Oui, hein?
aimé ça, puis du beau matériel aussi, avec des belles petites figurines qui faisaient les drones que tu plaçais dans un plateau double couche. Fait que non, oui, effectivement, c'est un jeu qui est passé sous le radar, mais qui est de bonne qualité, Cryo.
Un autre jeu que toi, tu as essayé, que moi, je n'ai pas essayé, donc ça va être à toi de m'en parler. C'est Equinox, qui avait quelques boîtes de mémoire. Il y avait je ne sais pas si c'était des covers alternatifs ou des trucs comme ça.
Oui, c'est vrai. Écoute, là, tu me
Ah,
rappelles.
je te rappelle des choses.
Ouais, là, tu me rappelles Equinox, je me souviens. J'avais reçu ça de la compagnie
Il y a Asmodée, j'imagine.
qui était Asmodée, puis c'est Plan B Games. Non,
Oui, c'est ça.
je l'avais reçu de Plan B à l'époque, parce que Stéphane avait un contact chez Plan B.
Tu vas me permettre de faire une petite parenthèse parce qu'on va
Oui.
souligner l'événement. C'est quand même une compagnie québécoise, Plan B, qui a marqué l'univers du jeu de société et à la tête de la compagnie, c'est Sophie. Sophie a été de tous les combats et est une personnalité très connue dans l'univers du jeu de société et elle prend sa révérence. Elle vient de recevoir son gâteau de départ et je la salue. Donc, bonne retraite, même si j'en doute parce que Sophie, c'est le genre de personne qui revient dans la sphère ludique à peu près régulièrement. Je pense qu'elle a été achetée 2 fois par Asmodée. Donc, ça ne me surprendrait pas qu'elle revienne encore. Mais bonne retraite si c'est la bonne ce coup-là. Donc, salutations.
Puis merci beaucoup parce que, en tout cas, honnêtement, moi, pour ce qui est des compagnies, ça a été des. Plan B a été une bonne compagnie qui existe encore, mais sous une autre forme aujourd'hui. Mais Equinox, je me souviens que c'était un jeu qui était un peu abstrait, un peu bizarroïde, mais qui avait cartonné auprès de ma famille quand j'avais joué. C'était avec tout plein d'animaux, tu sais que moi, j'adore les animaux,
Ouais, c'est
là.
un peu des genres animaux légendaires, un peu, là, je pense, là.
Ouais, puis il y avait comme des combats, fallait faire des lignes, là, en tout cas. Écoute, ça fait longtemps, Martin, mais j'avais bien apprécié, mais je n'ai plus ce jeu dans ma
Tu
bibliothèque.
n'as plus ce jeu. Prochain, c'est un des plus gros jeux à l'époque de style Roll and Ride que j'ai essayé. C'est une copie que j'avais empruntée à un abonné qui me l'avait passé. J'ai malheureusement pas la copie. Je sais pas si. Peut-être qu'il faudrait que je m'en procure. C'est Adrian's Wall, qui est le premier qui avait deux plateaux de jeu complètement. Moi, j'y avais joué qu'en solo, mais c'est un jeu vraiment à combo, dans lequel on avait différents chemins vers la victoire. C'était un jeu très intéressant. J'avais fait plusieurs parties de suite. Qui était à l'époque, on se disait « Wow, ils sont rendus là dans le jeu Roll and Write. » On trouvait ça excessif. Ça a été dépassé depuis. C'était le premier des gros costauds de ce style-là qui, je pense, a marqué l'époque et qui a ouvert peut-être la porte à un Twilight... c'est quoi l'autre?
Oui,
Inscription.
Twilight Inscription, oui.
C'est ça qui est sorti par après. Donc, voilà pour Adrian's Wall. Tu n'as pas essayé, je pense pas.
Moi, je l'avais, mais c'est Stéphane qui a fait la présentation. Fait que j'ai personnellement jamais joué.
Dans mon top 50, à un moment donné, je vous en parlerai.
Oh.
Prochain jeu, je pense que c'était dans ta phase où ce que tu aimes toujours les jeux d'intrigue, d'enquête et tout ça. Ça s'appelle le Pendule de la mort ou des morts. Tu nous avais partagé ton expérience là-dessus, qui est un jeu consommable qu'on fait une seule fois, je pense.
C'est 50 Clues, le pendule des morts. Et les critiques sont, en tout cas, sur Board Game Geek, il est coté 6,5, mais je l'avais fait avec Stéphane, puis ce qu'on avait aimé, c'était un thème un peu plus adulte, un petit peu plus gore, un petit peu plus horreur. Puis j'aimais bien le système de code qu'il fallait rentrer dans l'ordinateur. Donc, c'était une application web. Et puis, au lieu d'avoir une application avec Unlock, c'était vraiment, il fallait mettre des chiffres. En tout cas, j'aimais bien le principe, le concept, la manière que ça fonctionnait. Il y a eu des suites là, de ça que je n'ai pas encore eu la chance d'essayer. Mais j'avais bien aimé ce pendule des morts-là, qui faisait différent parce que c'était plus. Tu ne peux pas jouer à ça avec un enfant. Là.
Ouais, c'est ça que tu nous avais dit, puis ça fait effectivement, c'est le genre de jeu qui est propice à cet univers-là, parce que si on parle d'un univers un peu, gore, un peu...
Violent. Hein?
Violent, c'est ça. Comme on est habitué à le voir dans le jeu vidéo, dans le jeu de société, on le voit moins.
Exact.
Et puis là, d'avoir ça dans un jeu d'enquête, d'intrigue, ça peut être intéressant.
Oh, tout à fait. Je vous le recommande si vous aimez ce type de jeu-là. Il est vraiment passé sous le radar, mais vous ne jouez pas avec vos enfants. Il est coté d'ailleurs 16 ans et plus.
Prochain jeu, il n'est pas coté 16 ans et plus. J'y ai joué et on me dit, quand tu auras fini, tu passeras ta copie à Martin parce que Martin aussi, il pourra le jouer. Je te l'ai passé et tu as dit, ben là, je ne peux pas faire grand-chose avec ça. Avec justesse. Divinus de Lucky Dog Game, donc, qui arrive prochainement. Là. J'ai vu qu'ils vont livrer le jeu finalement. Très intéressant quand même, parce que c'est un jeu de dés dans lequel on va évoluer, puis il y a une question de collant, puis donc c'est un jeu legacy. Puis bon, c'est sûr que quand j'ai joué le scénario, je donne ma copie à Martin, il ne pouvait pas vraiment y jouer parce que j'y avais déjà joué.
C'est un peu weird tout ça, mais bon, bref, l'intention était là quand même, avec son intention de quelqu'un qui ne connaissait peut-être pas le jeu, mais bon. Mais tu peux en parler en bien.
Oui, mais moi, il est très différent des autres jeux de Lucky Dog Game. Puis celui-là, moi, j'ai fait les quelques scénarios de base et c'est un genre de jeu, je me suis dit, oh, j'ai hâte d'aller voir ce qui se passe après. C'est un jeu de dés, mais c'est un jeu de dés dans lequel on va modifier les dés. Mm-hmm. Puis ça, c'est intéressant parce que le jeu se rappelle de ce que tu as fait. Donc, tes décisions. Ouais. Ben oui,
y a de ton l'intelligence histoire. Artificielle.
Genre, non, il n'y a pas d'intelligence. C'est un vrai jeu, celui-là. Tu joues sur une table avec des vrais dés. Là.
Est-ce qu'il y a une application, celui-là?
Il y a une application, oui, mais elle n'est pas intrusive comme la base.
Parce que ça m'aurait surpris parce que Lucky Duck, c'est
leur spécialité.
L'application, oui, c'est ça.
Exact. Après ça, on a parlé d'un épisode spécial de la fin de Kickstarter. Déjà à l'époque, on en parlait.
De la fin de Kickstarter, oui, bien sûr. Ça ne marche pas, notre affaire.
C'est pas fini encore.
C'est quoi, je regardais dernièrement, je pense que c'est Stalker, je regardais sur GameFound la quantité d'argent qui sont rendus, puis mon Dieu que nos amis de Awoken Realm, ils n'auront pas de problème. Là. 2 428 889 $. Firefly s'est rendu 1 823 000 pour un vieux jeu. Scarface 1920, 693 000, Martin. C'est,
Martin, c'est... j'ai eu la mauvaise nouvelle de GameFound, justement. Pour faire une petite parenthèse par rapport à Dead Cell, à chaque fois que je fais une mise à jour, je vous avais parlé des frais qu'on avait eus la dernière fois, parce que ça, on avait quand même beaucoup d'argent qui était pris par Kickstarter, par la transaction, tout ça. Et le fulfillment, votre confirmation de commande se fait sur... c'est un pledge manager, mais c'est sur GameFound. À la base, GameFound était juste un pledge manager.
Oui.
Et on passait par là parce que c'est eux qui géraient la réception des adresses et tout ça, puis on finalisait avec eux. À l'époque, jusqu'à mois de juin dernier, il n'y avait pas de frais supplémentaires. Il y avait des frais de transaction, mais il n'y avait pas d'autres frais supplémentaires. Et là, en mois de juin, ils ont ajouté 5 % de frais à tout le monde.
Oh!
Là, ça vient de me recouter 5 % sur toutes les transactions en plus qui n'étaient pas budgétées.
Ben voyons donc. Fait qu'il a fallu que tu retournes de l'argent? Que
non, non, mais là pour faire le pledge manager avec GameFound, sur les 12 000 backers, ça va me coûter un autre 5 %
Oh, OK.
Pas budgété. Fait
que, quand
voilà.
Tu as dit que c'est une mauvaise nouvelle, ça veut-tu dire qu'on va en avoir les conséquences?
Ben non, on essaye que non, effectivement, mais c'est quand même. Il y a beaucoup de fuites. L'argent s'en va à droite pas à gauche.
Ouais,
Quand il y a
ça.
De l'argent, c'est rare que c'est un linéaire vers le concepteur. Là, c'est
Puis,
compliqué.
Pourquoi eux autres ils ont décidé tout d'un coup de faire un 5% de plus sur les pledge managers?
Ben parce que Kickstarter ne font pas de pledge manager. Tandis que GameFound, ils font la campagne et le pledge manager.
OK.
Si on veut attirer le monde pour aller faire des Kickstarter sur GameFound, ben si tu leur dis, nous, on a d'inclus le Pledge Manager et c'est dans le prix, puis si tu passes par sur Kickstarter, je te charge un 5% de plus.
Ah, OK, parce que vous avez passé par Kickstarter.
Oui.
OK, je comprends. Puis là, le 5% vient parce que vous venez d'une autre plateforme.
Genre.
Ah, OK, je comprends.
Okay. Mais c'était la pratique courante avant parce que c'était ça. Et là, maintenant, ils ont décidé de mettre une politique pour dire ben, pourquoi on n'inciterait pas le monde à venir du côté de GameFound.
OK, là, je comprends. Puis je comprends l'idée entrepreneuriale derrière ce choix-là.
Oui, c'est ça.
OK.
Voilà. Martin, tu es prêt pour l'épisode 13?
Ben oui!
C'est ma première visite au Spiel des Jahres.
Oh, t'étais parti en Europe, là?
Non, je pense pas. C'était la première fois qu'on en parlait, mais j'y étais justement l'année passée. Fait que c'était pas celui-là.
OK.
Cthulhu Dead Medaille, qui est revenu sur la sellette avec la grosse statue. Moi, j'ai la première saison. J'ai vu que JP, sur la pioche, il y avait la saison 2. Mais quasiment tenté d'aller le chercher. C'est un des bons Simmons. C'est un jeu de Cthulhu, bien sûr, mais il est bien adapté. J'aime la façon qu'ils ont adapté la folie, parce que les personnages peuvent tomber fous, puis on a des conséquences négatives dans notre gameplay. Celui-là est intéressant pour ça. Est-ce que c'est un jeu que tu as déjà joué?
Ben oui, que j'ai encore d'ailleurs. D'ailleurs, tu parles de la saison 2, c'est-tu la nouvelle campagne? Parce que moi, j'ai deux boîtes. Moi, j'ai une grosse boîte et une autre boîte blanche.
La boîte blanche, c'est la saison 2 qui était disponible lors de la première campagne.
Okay, c'est ça.
Moi, je ne l'avais pas pris à l'époque. J'avais juste pris le jeu de base parce que je ne suis pas un gars de FOMO. Mais là, voyant qu'ils viennent de sortir la saison 2 en boutique, ça me tente peut-être.
Puis ouais, mais je peux te dire un scoop que mes Patreons sur ma chaîne YouTube de la zone de jeux de société, ils ont choisi Cthulhu Death Medaille pour le prochain test du temps. Alors, c'est ma série où je revois d'anciens jeux puis que je vois s'ils ont passé le test du temps. Donc, il va probablement avoir une autre petite session de jeu de Cthulhu Death Medaille dans les prochains jours, prochaines semaines sur ma chaîne.
Donc, on n'entrera pas plus dans le sujet. On va attendre ta vidéo pour aller voir si ça passe effectivement le test du temps. Mais déjà qu'il est présent encore dans ta ludothèque, c'est déjà bon signe.
Oui, c'est un très bon jeu.
Je vais passer par-dessus les deux autres parce qu'on en a déjà parlé. Je t'ai présenté dans cet épisode-là Oltré, donc le jeu du studio H pour lequel on vient de recevoir d'ailleurs la première extension qui est Mort et Vivant. C'est un peu différent, qui fait un petit peu old school comme jeu. Par le fait que c'est un plateau et on tourne autour du plateau, mais il y a une histoire d'ensemble qui est intéressante. C'est comme un hybride entre deux types de jeux qui pourrait tomber à côté de deux cases plutôt que d'être entre deux cases, mais ça dépend avec qui tu y joues. Et je pense pour une initiation à un jeu de rôle, mais un jeu de plateau, c'est comme un hybride entre les deux. C'est assez intéressant. Puis l'histoire L'histoire est surprenante à chaque partie, le gameplay change. Fait que pour moi, ça a été une belle réussite. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler avec l'extension qui s'en vient.
Oui, je jouais avec mes enfants deux fois. Donc, je ne sais plus combien que de scénarios dans la boîte de base, là, mais nous autres, on en a fait deux, puis à chaque fois, c'est un hit à la maison. Fait que c'est le fun. On se promène autour, on gère des ressources, on fait avancer l'histoire, puis il y a toujours des choses un peu spéciales qui se passent. C'est toujours agréable. Fait que Coltrane, c'est un bon jeu.
L'as-tu gardé?
Oui, je l'ai encore. J'ai l'intention de passer à travers la campagne avec mes enfants qui sont de plus en plus vieux, par contre, mais je pense qu'ils vont continuer à aimer ça. Si moi, j'aime ça.
Bon. Aventurier du rail, on peut-tu passer par-dessus?
On peut passer, oui, s'il te plaît.
Bon.
Malgré qu'il ne faut pas que tu oublies qu'il y a un Legacy qui sort cet automne.
Je le sais, on en a parlé la semaine passée.
Oui, voilà.
Oui. Après ça, on est arrivé avec un jeu d'un autre studio, un autre jeu de Studio H qui est suspect, un jeu d'enquête un petit peu à la Agatha Christie, avec des personnages historiques, un peu classiques dans son approche, mais moi, ça a eu du bon succès parce que c'est le genre de jeu qu'on on est sur le quai, on amène ça, on se jase d'une situation, puis on essaie de trouver l'intrigue comme ça. C'est la façon dont j'y joue, c'est plus pas vraiment autour d'une table concentrée à y jouer, mais c'est plus atmosphère de jeu en dialoguant autour d'une soirée. Donc, on est déjà rendu à la troisième boîte qui va sortir là, très prochainement. Donc, ça continue à vivre.
Ce qui est très drôle, Martin, c'est que hier, j'ai sorti Suspect, parce que j'ai le premier. J'ai sorti Suspect pour y jouer avec ma fille, parce que ma fille, on a découvert qu'elle aimait beaucoup les films d'enquête. On a regardé des films d'Hercule Poirot, puis...
classique.
Puis d'Agatha Christie, puis tout ça. Là. Puis je l'ai sorti pour jouer avec elle. J'avais lu les instructions qui sont sur trois petites pages. Puis elle a préféré jouer à Buffy de Vampire Slayer à la place Legendary. Et ça fait, je pense que ça fait quatre fois, Martin, que je sors Suspect à la maison. Puis ça. Je vais finir par y jouer en solo. Qu'est-ce que je te dis?
Ça se joue.
Je ne suis pas capable de trouver du monde pour y jouer.
Puis le dernier jeu qu'on a parlé, ben, tu nous as parlé tantôt, c'est Dwelling of Etherville. Tu l'avais présenté pour moi, ça avait été une belle révélation quand c'est arrivé.
Oui.
J'ai appris à découvrir et apprécier Luke Lurie, l'auteur, par ce jeu-là. Puis à chaque fois maintenant qu'il sort de quoi, je reste attentif parce que c'est un auteur que je pense qu'il fait un peu les choses différentes des autres. Il y a plein de petites mécaniques intéressantes. D'ailleurs, on a une campagne Kickstarter qui est sortie il n'y a pas longtemps qu'on se disait c'est quoi ce jeu-là. Puis quand j'ai su que c'était Luke Lurie, je dis ça m'intéresse. Je pense que les précommandes sont disponibles sur la pioche. C'est un des jeux d'espace là,
qui est comme le successeur spirituel, je pense, de Dwelling of Etherville, d'après ce que j'ai. J'en ai parlé avec Andromeda's Edge.
C'est ça, exactement.
Voilà. Qui est fait par lui et qui serait comme une refonte de Dwelling of Etherville, mais dans l'espace.
Dans l'espace. Tu te l'es commandé, donc j'imagine que...
Oui. J'ai pas joué, par contre, depuis qu'on a joué ensemble, toi et moi. Mais j'ai la copie du jeu que j'ai toute dépunchée, toute préparée, puis je me propose sûrement que Stéphane va vouloir jouer avec moi cet été.
T'as la grosse copie avec les figurines qui font du bruit et tout le kit, là?
Non, j'ai la copie avec les standees. Mm-hmm. Je me suis acheté à la pioche des collants que tu peux mettre sur les standees de Dwelling of Etherville.
OK.
Ouais.
C'est
des collants qui sont faits par une compagnie tierce que tu peux coller directement sur les standees pour mettre un genre de personnalité à ta copie.
OK, tu parles des copies de bois, là, les petites...
Oui.
Oui. OK, je comprends.
Oui, les standees en bois. Là.
OK, c'est pas les standees, mais c'est les meeples, finalement.
Si tu veux, Martin. Il n'y a pas de problème. Non, mais tu es correct.
C'est pas pareil. Eux autres, quand tu parlais de standee, ils ont vu une plaquette en deux dimensions dans un socle de plastique. Hey, c'est pas
standee,
ça.
C'est un standee sur le... OK.
On va terminer ça avec notre épisode 15. Donc, le 14, c'est les thématiques de jeu. On avait couvert c'est quoi qu'on anticipait comme thématique intéressante puis qu'est-ce qu'on appréciait. C'est drôle parce que notre jeu idéal, on parlait d'un jeu à la Star Trek, puis par après est sorti ISS Vanguard, qu'on avait beaucoup d'appréhension parce que ça ressemblait beaucoup à ce qu'on avait ciblé comme mécanique à anticiper. Et on finit ça avec l'épisode 15, Martin. On s'arrête à 15 aujourd'hui.
Oui, vous pensez que c'est correct, là.
Je ne sais pas si je vais vraiment... Je pense pas de faire tout... d'habitude, je mets des chapitres avec les noms de jeux.
Oui, oui.
Parce qu'aujourd'hui, ça ne sera pas le cas.
Tu iras épisode par épisode.
Oui. C'est là que tu as commencé à nous parler de la saga de Rocketman. a été long à aller
Oh
ton
mon
Rocketman.
Dieu Seigneur, Rocketman, Martin. Oh
Tu l'as
wow.
tellement attendu.
Ah, c'était le jeu que je ne recevais jamais, mais que tout le monde dans le monde avait reçu, mais au Québec, il avait comme oublié qu'il y avait des francophones. Puis il avait comme pas pensé qu'il fallait envoyer des copies au Canada. Et ah oui, ça a été tout un débat, ça. Et je pense que c'est ce qui a parti beaucoup notre concept des controverses de la semaine.
Je pense que c'est parti effectivement de là, le branding de ce que tu nous présentes à chaque fois. Et est-ce que c'est un jeu que tu as gardé à ta ludothèque?
Non, je m'en suis dit, ben, c'était pas un mauvais jeu. C'était pas si mal, mais c'était.
C'est un autre Martin Wallace.
Ouais, c'était un Martin Wallace, puis c'était correct comme jeu, sans faire ce jeu. Mais tu sais, c'est pas un jeu qui m'a accroché tant que ça. Puis je l'ai gardé quand même un bon temps. J'ai joué beaucoup, j'ai joué en solo, j'ai joué avec d'autres personnes. C'était bien, c'était correct, mais pas assez pour rester dans ma ludothèque. Ça sortait pas assez de l'ordinaire, mais quelle saga, cette saga-là de Rocketman.
A effectivement commencé notre branding de controverse de la semaine. Ensuite, tu es arrivé avec un jeu, je vais être curieux de savoir. Je ne l'ai pas essayé ce jeu-là. Non, c'est pas vrai, je l'avais loué une fois à la boutique Randolph et j'y avais joué une fois. Mais ce n'est pas un jeu que j'ai à ma ludothèque. Je le trouvais intriguant par son aspect visuel qui est assez intéressant, mais sur son asymétrie, parce que c'est des mini-games entre chaque personnage, on jouait vraiment de façon différente et c'est la baie des marchands.
Ah oui.
Que tu avais bien aimé, je pense,
Oui.
mais est-ce que tu as gardé ça à ta bibliothèque? Est-ce que tu l'as
Non,
rejoué?
non. J'ai joué beaucoup à la baie des marchands, mais j'ai non, parce que à un moment donné, il faut que tu fasses de la place, puis ça reste un jeu qui, je trouve, malheureusement, n'allait pas sortir assez souvent. Mais moi, j'ai bien apprécié le concept de on est des marchands, c'est asymétrique ce qu'on fait. Le but, c'est de créer des items pour que les aventuriers venaient dans notre baie pour acheter, puis qu'il fallait donc faire le plus de ventes. C'est très économique comme façon de fonctionner. Puis c'était la façon de créer nos items qui étaient très différents. Il y en avait un, c'était un genre de potion explosion avec des billes. Il y en avait un qui jouait avec le temps. Moi, je pense que c'est un très bon jeu. Est-ce que je regrette? C'est peut-être fait partie d'un des jeux que je regrette de m'être départi, Martin, parce que je l'aimais bien ce jeu-là. Mais bon, à un moment donné, je n'ai pas le choix de faire des. C'était une grosse boîte.
Ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'il est très différent des autres jeux.
Ouais.
Puis moi, c'est ce que j'essaie de garder dans ma ludothèque, dans le fond, c'est des expériences de jeux différentes. Quand je l'ai essayé, par contre, je l'ai trouvé un petit peu gimmick. Puis je n'étais pas sûr qu'il était balancé dans tous les peuples, dans toutes les factions pour faire des points. Puis ça, je n'ai pas joué assez, là, je ne peux pas le savoir, là. Mais à la première lecture des règles, je me disais, OK, je ne suis pas sûr que je ne suis pas avantagé de jouer lui plus que lui, mais bref.
Je te dirais que moi, c'est l'expérience que j'aimais, puis j'y ai surtout joué en solo. Puis le solo, il était correct quand même, il était le fun à jouer. Fait que la baie des marchands, ouais, c'est un beau souvenir, ça.
Prochain, c'est celui qui a remplacé Pandémie pour plusieurs. C'est celui qui t'avait marqué quand il est sorti, qui d'ailleurs qui sort une extension, j'ai vu récemment. C'est un des auteurs français. Je pense que c'est Théo Rivière, entre autres, qui est là-dessus. Et c'est The Loop.
Ah
Donc,
oui.
le jeu de j'aime. Moi, il me disait pas grand-chose par son aspect graphique. Je disais, bon, OK, c'est correct. La tour, je la trouvais intéressante, mais quand j'y ai joué, je me disais, OK, ben c'est un peu de l'aléatoire un peu. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le voyage dans le temps, dans le fond. C'est avec les cartes et on pouvait se promener sur le. C'est pas un voyage dans le temps proprement dit, là, mais on créait des loops et on pouvait comme additionner des pas d'un nombre de tours, là, mais c'est notre engine fonctionnait avec nos cartes comme ça. Puis ça, je trouvais ça ingénieux de la façon qu'il avait été amené cet aspect-là dans le jeu. Puis il y a l'aspect très humoristique là, où ce qu'on a des slips puis toutes sortes de cartes humoristiques là, dans le jeu, là.
Oui, c'est un très bon jeu. Puis le pire, c'est qu'il venait avec plusieurs types de scénarios
Oui.
aussi que tu pouvais faire. Puis moi, je pense que j'en avais fait juste un, qui est, je pense que le scénario qui s'appelle Sabotage. Mais humoristique, simple, très le fun coopératif. Moi, j'aimais bien l'aspect artistique qui était très cartoon. Puis je sais qu'il y a d'autres extensions qui sont sorties de ce jeu-là. Fait que The Loop.
Est-ce que tu as gardé The Loop?
J'ai gardé The Loop.
Moi, je ne l'ai même pas à ma ludothèque. J'ai joué parce que je l'avais emprunté, mais ce n'est pas un jeu que j'ai dans ma ludothèque.
Mais moi, je l'ai encore et il ne quittera pas ma ludothèque parce que, comme tu as dit, c'est un très bon jeu coopératif. Belle fun.
Oui, c'est ça. Il est un peu moins drabe qu'un pandémie qui lui, c'est une gestion de virus et tout ça. Mais là, les virus, on peut repasser. Là, on
ouais,
en a eu.
C'est
hein.
Ouais.
C'est ça. L'autre, je t'ai parlé probablement, c'était moi. Kenva, qui est un jeu que j'avais pris sur Kickstarter, qui est arrivé par après, qui reprend la thématique de card sleeving, mais en recréant des œuvres d'art avec des façons de marquer différentes. Il y a une extension qui est sortie par après à ça. J'ai trouvé ça très cute comme jeu. Je l'ai gardé parce que c'est une version KS que j'ai, puis ça ne prend pas de place. Je n'ai pas rejoué par contre depuis. J'aime cet aspect-là de card sleeving qu'on a découvert avec Mystic Veil, qui n'est pas beaucoup exploité dans les jeux, la transparence. Il y en a très peu qui l'ont fait, puis la plupart ne sont pas bien faits. Celui-là, je le trouvais quand même thématiquement bien fait, malgré le fait que c'est une course au point après ça avec des objectifs de différents types d'icônes ou de couleurs.
Exactement. Puis c'est, mais sauf que ça faisait ça donnait de beaux œuvres d'art.
Oui, puis ça fonctionnait ensemble.
Oui, ça fonctionnait très bien. J'ai joué d'ailleurs avec ma mère à ce jeu-là. Je l'ai encore dans ma ludothèque. Là. C'est un très beau jeu, le fun, simple à jouer, puis à expliquer aussi. Puis avec un. Dans le fond, ce qu'on crée, c'est visuellement beau, mais ce qu'on a besoin, c'est juste des petits icônes qui sont en bas à droite.
Oui, c'est ça.
Fait que tu n'as pas besoin d'autre chose que ça. Mais ça, c'est un très bon jeu puis, qui vaut la peine d'avoir dans une ludothèque pour jouer avec des gens qui sont des fois un petit peu moins joueurs.
Oui, puis comme il est très beau, très cute, facile à saisir quelqu'un en disant « Je vais te montrer de quoi de séduisant », puis
Oui.
tout le monde a quand même le petit « wow », le côté « wow » du jeu, en disant « Ah, ça a l'air bon ». Au bout de la ligne, ça reste un jeu, pour nous qui est habitué de jouer très… on enchaîne, c'est une succession, c'est une collection d'ensemble, dans le
Ah oui,
fond,
c'est
là.
très simple comme jeu, là. C'est
C'est ça.
pas. Mais des fois, c'est le fun, la simplicité.
Oui, de plus en plus, on
Oui.
apprécie ça, hein, parce que
Ah.
38 pages de règles double
Bah,
colonne…
boy. Puis quand tu regardes les couleurs, c'est comme hop, 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 hop.
Voilà. Le prochain, Martin, je sais que tu ne l'as plus dans ta ludothèque parce qu'il est chez nous. Je n'y ai pas joué depuis que tu me l'as passé. J'avais joué, mais je m'étais promis d'y retourner. C'est Velray.
Oui, c'est vrai, je t'avais donné ça.
Velodissa Game, qui est un peu notre ami. Comment est-ce qu'il s'appelle, lui?
Écoute, c'est lui qui a fait
Oui.
Shadow of Guildforth.
Exactement.
Mais c'était. Puis le pire, c'est que le jeu utilisait des mêmes éléments artistiques. Puis.
Mis en noir et blanc avec.
Ouais, c'est ça. C'est notre ami Tristan Hall.
Ouais, qui s'est pas fait d'amis d'ailleurs quand il a fait la version française. Moi, j'ai parlé de sa situation parce que c'était, je pense que c'était Not Publishing qui avait fait la première version en français. Puis. Il n'avait pas fait le suivi de dossier. C'est Florent qui me parlait. Il avait tout traduit le jeu pour s'apercevoir que travailler au complet sur le mauvais fichier. Puis à la fin, il a dit, ouais, mais t'as pas le bon fichier. Là. Puis il avait peut-être obligé de refaire au complet le jeu. C'est pour ça finalement qu'il n'y a pas eu de suite à la version française parce que ça avait été compliqué. Il y avait eu peu de collaboration de ce côté-là. Mais ça n'empêche pas que Gloom puis Shadow, c'est des jeux assez intéressants. Puis celui-là
Oui.
reprenait un peu l'esprit de ce jeu-là, mais tout en étant un jeu un peu différent. Ça me fait penser à 20 Strong, dans le sens où ils prennent un jeu, puis après ça, ils en font un autre jeu à partir des mêmes personnages-images. L'autre, c'est un jeu de dés, c'est pas le même style, mais
Oui, mais 20 Strong va être bon.
je sais pas.
Veilraid, c'était correct,
Ouais, c'était juste correct.
mais c'était pas. Il manque, mais c'est un jeu évolutif aussi, là. Tu pouvais avancer, avancer, avancer. Mais artistiquement, toujours aussi beau. Là, c'était un beau design. Puis c'est un jeu qui était correct.
Et après ça, Martin, mais on parle de jeux qu'on avait déjà parlé. Donc, ça mettrait fin à ma première liste de 15 jeux sur le retour
Il
de
en reste
nos expos.
85.
Comment?
Il en reste 85 épisodes.
Ben, tu vois, on vient de trouver un concept d'épisode à toutes les 15. On
Mais
pourra
voilà.
faire un retour. Donc, c'est un premier début. Et là, le 15, ça nous mène au 20 août 2021. Voilà.
Un peu, à toutes les 15 épisodes, tu veux qu'on fasse ça?
Non, ben, on peut le faire. Mais
Ah,
on avancera dans le temps comme ça. Quand on arrivera dans une phase B, puis qu'on cherchera un sujet,
un
ben,
sujet,
on
on va voir
partira
ça.
à
Ah, oui,
16, puis on en fera un autre 15.
OK, ça a bien de l'allure, ça, Martin. Ça a bien de l'allure. C'était un bel exercice. C'est toujours le fun, des fois, de revenir sur d'anciens jeux, voir qu'est-ce que, t'sais, comment les choses ont évolué, puis qu'est-ce qu'on pense de certains jeux qu'on a plus, que peut-être qu'on regrette, qu'on aurait dû garder. Fait que c'est toujours le fun de regarder notre historique, parce que l'histoire, Martin, c'est les yeux de notre âme.
Dit le prof d'histoire qui essaie d'inculquer aux gens que l'histoire, c'est garant de notre futur.
Oui, c'est parfait.
Et...
Pour bien, il ne faut pas, tu sais, on dit tout le temps que l'histoire, c'est la compréhension du passé afin de ne pas refaire les mêmes erreurs dans le futur.
Exact. On a de la misère à apprendre parce qu'on les répète souvent.
On a bien l'humanité. Des fois, il faudrait se donner des petites tapes en arrière de la tête pour se replacer un petit peu les idées.
Ouais, je suis en train de suivre la série sur Netflix là, sur la Terre. Là. Ils ont sorti la deuxième saison. Là. Et ouais, c'est des belles images, mais si on veut conserver les belles images, il faudrait y faire attention à notre Terre.
C'est tellement un beau message écologique, Martin, pour finir cet épisode. C'est très inspirant, tout ce que tu dis.
Bon, on va se laisser sur cette inspiration-là, puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre 102e épisode. Et on approche de la fin pour l'été.
Oui, ben, ça va être notre avant-dernier épisode avant notre petite pause d'été. Mais il nous reste encore plein de contenu à créer, Martin. Alors allons-y, allons jouer à des jeux qu'on puisse en parler dans le côté A de la semaine prochaine.
Alors, ben, c'est parti, Martin. On se met à jouer et on vous revient avec nos expériences ludiques la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.
Bye bye.
Salut, bye.
Pour nous rejoindre par courriel, de l'autre côté du plateau à gmail.com ou sur le site de buzzsprout.com. Et c'est ce qui complète notre partie. Joignez-vous à nous chaque vendredi pour la découverte de l'autre côté du plateau. Et d'ici là, jouez bien!